groupe, s'il vous plaît. Donc nous recevons Maurice Korkos cet après-midi pour nous parler des borderline, des dépressions, des passages à l'acte à l'adolescence. Alors Maurice Korkos est évidemment pédopsychiatre et c'est lui qui est directeur maintenant, après Philippe Jamet, de l'Institut Montsouris à Paris. Et il a écrit de très nombreux livres, évidemment. Et je voudrais vous en citer quelques-uns, parce que là aussi, ça donne la teneur de ce qui est sa recherche. Donc, il y a eu « La terreur d'exister », « Les troubles de la personnalité borderline à l'adolescent », plus récemment, « L'homme selon le DSM », « Le nouvel ordre psychiatrique », « Est-ce le monde que nous voulons ?» Et puis, tout dernièrement, « Qui a peur de la maladie mentale ?» Alors, en plus de ça, parce que visiblement, ça ne devait pas suffire, lui aussi, il s'intéresse beaucoup à des grandes figures de l'art, de la littérature. Il analyse un petit peu ce qu'il pouvait avoir dans la tête. Et il y a eu ce très beau livre, « L'adolescence violée », c'est le cas de Rimbaud. Voilà. Alors, juste avant de lui laisser la parole, je voulais juste revenir, parce qu'on vient d'avoir un échange avec Maurice Korkos là-dessus. Vous avez vu que tout à l'heure, David Le Breton a eu un avis qu'il a exprimé tout à la fin de son intervention, en disant que tous les enfants, les jeunes adolescents borderline, qui avaient des conduites à risque, plus ou moins, lui, il ne parle pas de borderline, il parle des jeunes qui ont des conduites à risque, finalement, ils pouvaient, pour la grande majorité, s'en sortir tout seuls. Vous avez vu que je suis intervenue à ce moment-là pour lui dire que il me semblait qu'il y avait quand même certains d'entre eux qui avaient besoin d'un appui médicamenteux, d'une prise en charge psychiatrique. Et il a repris en disant que c'était certainement vrai, mais que ça n'était qu'à la marge, n'est-ce pas ? Donc, je voulais juste quand même interpeller, parce que c'est intéressant d'avoir aussi un petit peu de dialogue, voire même un peu de conflit, pourquoi pas, Maurice Korkos par rapport à ça. Donc, Maurice Korkos, vous, tous ces jeunes qui ont des conduites à risque, qu'est-ce que vous pensez que la majorité, puisque c'est ce qui nous a été dit, peuvent s'en sortir tout seuls? Alors, oui. Sans traitement, voilà, médicamenteux. Voilà, sans traitement, vous avez raison, il a dit, c'était sur le traitement médicamenteux. S'en sortir sans traitement médicamenteux, voilà. Donc, je voulais savoir votre avis.
D'accord. Bien. Exact.
Merci de... Vous avez raison.
Bien, ben avant de répondre, de tenter de répondre, de donner des éléments de réponse à cette question évidemment importante. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices de leur travail tout à fait conséquent, important, fondamental même avec les temps modernes tels qu'ils courent actuellement, de pouvoir vous réunir, vous qui avez des fonctions différentes mais qui tournent autour du soin des plus démunis, de vous réunir pour rencontrer un certain nombre de personnes avec qui pouvoir échanger, discuter, disputer sur quoi ? Ben, sur leur expérience, si ce n'est sur leur expertise, à partir de laquelle ils peuvent déterminer une opinion, un avis, si ce n'est une croyance. Mais il faut que vous fassiez la part quand même de ce qui est opinion, avis, sentiment, espérance, illusion, croyance ou fait dur, réel, tranchant. Bon. Alors, c'est compliqué cette question. Et en effet, probablement que David a dû être plus circonspect, moins tranchant que le récit qu'on en fait ne pourrait le laisser entendre. Mais bon, David est socio-anthropologue. Il a une histoire particulière qu'il a exprimée. Moi, je suis pédopsychiatre, j'ai une histoire particulière que je ne vais pas vous raconter. Mais oui, David court beaucoup et il aime bien le blanc. Moi, je suis plutôt contemplatif et je n'ai pas peur, comme vous pouvez le voir, du noir. C'est-à-dire que mon point de vue, que j'ai hérité de beaucoup de maîtres, en particulier Philippe Jamet, et que, et on le voit avec l'expérience et l'âge, ce métier est un métier formidable, mais on ne peut pas dire que ce soit la branche de la médecine la plus développée. La psychiatrie est d'une pauvreté effarante, quoi. On sait très, 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 très peu de choses. On a très, 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 très peu de moyens. Et on est face à une adversité, une complexité immense. L'arrivée des neurosciences nous promet tout un tas de découvertes, les mêmes que la génétique et la biologie nous avaient promis pendant 40 ans, qui n'ont pas tenu leurs promesses. De la même manière que la psychanalyse nous a fait beaucoup de promesses et on ne peut pas dire qu'elle nous ait donné beaucoup de réponses. Bref, le sujet est complexe, dense. Bon. Alors, s'il y a une chose que je crois très profondément et que je vérifie par expérience, c'est qu'il est extrêmement difficile de prévoir, de prédire, si cet adolescent, cet adolescent-là, qui évolue vers des conduites à risque, et évidemment, ça dépend lesquelles, il y a quand même des facteurs. S'il a une famille complètement déjantée, s'il a des antécédents traumatiques majeurs, d'effractions, d'abus, d'attentats, de maltraitance, de carence, si tout ça a débuté très tôt, s'il n'a pas eu de protecteur, oui, il y a fort à parier que ça commence mal et que ça va finir mal. S'il a consommé à Stalingrad, parce qu'il habite à Stalingrad, du crack, plutôt que de la cocaïne, parce qu'il habite dans le 16e rue de la Pompe, ce n'est pas le même devenir. Le crack, ça vous démolit en une fois. La cocaïne, ce n'est pas une apologie, ça vous laisse un peu de temps. Bon. Donc, il y a des facteurs personnels, individuels, familiaux, historiques, socioculturels, économiques, sans compter la contingence et le hasard. Tout ça fait dire que ceux qui disent que, oui, la majorité vont évoluer bien et les autres à la marge, eh ben, il me semble qu'ils vont un peu trop vite en besogne. Alors moi, évidemment que mon point de vue est biaisé, puisque ce que je vois dans mon service, c'est tous ceux qui vont extrêmement mal, puisque c'est ceux que j'hospitalise, c'est ceux que je suis en consultation, c'est ceux avec qui on construit des choses, enfin, on va parler de tout ça, bon. Mais ça n'empêche pas que, par ailleurs, nous avons une activité de recherche et nous avons développé un certain nombre de recherches parmi les plus importantes, si ce n'est les plus importantes en France, et même à l'international sur les borderline, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les chiffres, contrairement aux mots, ne mentent pas. Et les chiffres sont effarants du nombre d'antécédents traumatiques chez ces patients-là, et aussi de l'évolution particulièrement morbide. Donc non, non, deux fois non, trois fois non, même si vous voulez. Je crois que vous devez, dans votre expérience avec ces patients, rester très tôt humble sur le fait que vous ne pouvez pas présager, prédire, et qu'en tout cas, un des éléments qui va modifier ce qui pourrait être un destin et le transformer en une destinée, un des éléments qu'on connaît qui peut modifier, c'est la rencontre avec vous. Le reste, son tempérament biologique n'est pas égal à l'autre qui fait qu'il est plus vulnérable, il n'y a aucun marqueur biologique pour le déterminer. Le reste, les facteurs traumatiques familiaux, l'impact qu'ils ont eu, à quel moment de maturité psychologique il a pu intégrer cet impact traumatique ou pas, personne, etc. etc. Le seul que vous pouvez plus ou moins mesurer, et encore, c'est la rencontre avec vous et ce que vous allez faire pour lui. Comment vous allez l'épauler, le contenir, l'accompagner. Bon. Philippe Jamet, en tout cas, nous a enseigné de tout temps qu'il était hors de question d'être dans une idéologie qui rappelait celle des années 70, qui a eu des avantages mais aussi des inconvénients, c'est-à-dire que la fameuse liberté libre, le désir qui pouvait rencontrer un autre désir et se perdre dans des recherches toxiques, c'est pas possible. À un certain moment, très vite, c'est le toxique qui dirige, c'est la recherche de sensations qui dirige, c'est l'anorexie qui dirige, c'est la maladie qui dirige. C'est là où les psychiatres viennent. Ils viennent lorsque la solution que le sujet a trouvée, l'hyperactivité avec recherche de sensations, les toxiques qui enivrent, qui embrument, qui blanchissent pour éviter de penser au trauma, les passages à l'acte hétéro-agressif, l'alcool, enfin tout ce que vous voulez, toutes les modalités défensives pour contenir l'explosion psychique ou la dépression, ça n'est pas sans effet, ça organise l'ensemble de la personnalité du sujet autour de cette prise de toxique. Le toxicomane passe son temps à aérer à côté des pharmacies pour voir s'il peut avoir quelque chose. Il ne fait plus rien d'autre. L'anorexie ne mange pas, elle ne pense qu'aux calories protéines. Donc le symptôme qui a pu avoir une valeur défensive et dont le sujet peut se dégager, mais on ne sait pas comment, quand, ni même s'il peut le faire, ce symptôme s'auto-renforce et s'auto-engendre, ça c'est deux mots clés de chez Philippe, s'auto-renforce, s'auto-engendre et réorganise l'ensemble de la personnalité autour d'eux. Le sujet ne pense plus qu'à ça, à trouver des moyens de défense pour apaiser, pour calmer une douleur dont il peut avoir légitimement envie, besoin, il fait ce qu'il veut, c'est sa liberté, de la blanchir, c'est-à-dire de la mettre sous vide. Mais si c'est à effet positif à court terme, ça n'est pas effet positif à long terme. Et oui, moi, je préfère qu'il traverse cette douleur, c'est-à-dire qu'il va dans les abysses, dans les abîmes, qu'il rencontre le noir, qu'il n'opacifie pas par le blanc. Évidemment, c'est extrêmement dangereux de plonger dans le trou, dans le vide, dans les abysses, dans les traumas, dans ce qui s'est passé, dans ce qui ne s'est pas passé. C'est extrêmement dangereux et aussi beaucoup moins vendeur. C'est-à-dire, ça va être long, ça va être laborieux, ça va être cher et ça va être aléatoire. En ce moment, les gens n'aiment pas ça, enfin, c'est pas vendeur. Donc oui, ça va passer, tout est possible, la résilience, tout ce que vous... C'est peut-être vrai, c'est surtout extrêmement vendeur, en tout cas, ça n'est pas des faits avérés. Autre phrase de Philippe Jamais, la résilience est un constat. C'est-à-dire que vous ne pouvez que constater après coup que celui-là, pour des raisons que vous ignorez, a pu se dégager d'un enfermement pour lequel les conditions qui présidaient à cet enfermement, la prise de toxiques, l'environnement familial, etc., étaient, disons, a priori le même que l'autre. Pourquoi celui-là oui, pourquoi celui-là non? Pour tout un tas de raisons qu'on ignore, et y compris parce que ce n'est pas vrai qu'on peut tout à fait vraiment cerner les conditions qui ont présidé à. Et en particulier, pour ceux qui aiment un peu la psychologie, il n'y a pas simplement les conditions conscientes, avérées, matérielles, il y a aussi les conditions inconscientes, évidemment. Bon, voilà quelques éléments de réponse là. En tout cas, parmi les bouquins qu'on a commis, il y en a un qu'il ne faut pas acheter, donc vous voyez que je ne sais pas le vendre, parce qu'il est bourré de chiffres. Donc c'est le bouquin sur le réseau borderline, c'est-à-dire une recherche de 10 ans sur une centaine de patients borderline qu'on a pris un peu partout. Et alors, on les a essorés de tout un tas de questions, de tout un tas de recherches à la fois neurobiologiques, psychopathologiques, épidémiologiques, tout ce que vous voulez. Bon. Accessoirement, pour attraper 100 borderline, il faut 10 ans. Hein. Parce qu'ils viennent, ils ne viennent pas, ils font des passages à l'acte, ils ne sont pas compliants, enfin c'est une galère. Quoi. Bon. Toujours est-il qu'à l'issue de tout ça, on a retrouvé quasiment les mêmes chiffres que les autres données internationales, et ces chiffres sont dans ce bouquin, un gros bouquin de 300-400 pages, c'est Duno. Et bon, je vais vous redonner les chiffres si jamais ils me reviennent de temps en temps au cours de la discussion, mais les chiffres sont affolants sur le fait qu'il y a une vérité, une réalité du trauma. Que ce n'est pas des fantasmes, hein. Que les adolescents difficiles, c'est un euphémisme, adolescents difficiles, hein. Les adolescents en détresse, les adolescents en désarroi, les adolescents désemparés, à mon avis c'est beaucoup plus juste, ce n'est pas simplement difficile, bon. Ils ont une histoire traumatique effarante, bon. Et ils ont des risques de désinsertion scolaire, professionnelle effarants et des risques de complications effarants. Bon, très bien, mais je ne veux pas commencer par là. On verra si ça revient après pour ce qui est des chiffres. Voilà pour un élément de réponse à ta question et on pourra avoir des compléments. Bon. Mais je rappelle que ce n'est pas une attaque contre la socio-anthropologie-philosophie que j'affectionne tout particulièrement. Ces approches sont complémentaires et elles doivent... s'affronter, se disputer, au sens de Socrate et d'Aristote, pour parvenir chacune à s'entremêler, à se nuancer, à se révéler, se clarifier, voilà. Bon. Alors, moi je crois en effet, alors peut-être qu'en effet, pas de vous raconter ma vie, mais de raconter ce que je fais, puisque c'est à partir de là que ce que je vais vous dire émerge. Donc, à la suite de Philippe Jamais qui a construit... ce service, et pas n'importe quel service, puisque c'est le premier service, le premier département de psychiatrie d'adolescents et d'adultes jeunes en France et même en Europe. Donc Philippe avait une idée très forte, c'est que cette tranche d'âge, l'adolescence, qui commence grosso modo après la puberté, ça au moins c'est clair, sauf que la puberté, elle a quand même bougé. Il y a une évolution séculaire du début de la puberté. Il n'y a pas si longtemps, au 19e siècle, c'était autour de 16. Là, on est à 11,5, 11,6. Ça veut dire que vous allez avoir des adolescents très jeunes, quoi, et qui vont manifester très jeunes des troubles du comportement des conduites. Bon. Mais en gros, ça commence là, ben, très simplement. Là aussi, c'est des faits. C'est de la biologie, c'est des hormones. Et évidemment, nous sommes des êtres biologiques, hormonaux. Bon, vous vous rappelez, j'imagine, vous avez des enfants qui vous le montrent tous les jours, qu'il y a un orage hormonal, émotionnel, et que ce n'est pas simple à traiter, à gérer, à contenir, et que ça les désorganise, ça les désempare. Bon. Et que ce qui était plus ou moins tu, refoulé, clivé pendant l'enfance, ce qui existait même et qui ne pouvait pas être agi parce qu'il n'y avait pas la maturité physique, psychique, affective pour le faire, tout d'un coup, assez brutalement, à la puberté, ça peut s'exprimer. Et là, il y a des règlements de compte, oui, incontestables, par rapport à ce qui s'est joué dans les traumas de l'enfance. Et bon, très bien. Donc ça commence là et puis ça finit. Alors c'est là la question, selon l'OMS, 25 ans. Dans le service, nous avons des adolescents de 40, 50 ans dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser et qui ont toujours une problématique adolescente. Donc ça se discute, mais grosso modo, à un certain moment, même si c'est pas, même ça, c'est pas sûr. La fin de l'adolescence, ça pourrait être de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est pas mal parce que ça vous sort de l'endogamie, de l'inceste. Inceste in se carré, sexus, le sexe coupé. Avec le sexus, le sexe avec un autre, vous coupez l'inceste, vous sortez d'un monde où la psychanalyse dit, mais on n'entend plus la psychanalyse, que cet espace familial était un espace idéal, sublime, magnifique et tragique, et érotique, et même parfois pornographique du fait des passages à l'acte sexuel nombreux qui sortent un peu partout. Donc, vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous sortez de l'inceste, et alors si vous avez une jouissance avec ce quelqu'un d'autre, ce n'est pas négligeable, c'est-à-dire que s'il vous fait, bon, s'il vous aime, s'il vous rêve, s'il vous pense, mais s'il vous fait jouir aussi, eh ben, visiblement il vous attache et vous allez rester un peu plus avec lui qu'avec votre famille. C'est de l'économie ça. Bon, eh ben, ça, c'est ce qui vous permet de vous séparer de votre famille. C'est à ce moment-là d'ailleurs en général que vous arrêtez de donner votre linge sale à laver à votre mère. Parce que ce linge sale, eh ben, vous l'avez sali avec ce conjoint, cette conjointe, et donc vous le lavez entre vous. D'accord ? Ce que l'Église n'a toujours pas compris, visiblement. Bon. Donc, vous vous séparez. Et alors, on dit aussi que quand vous avez un enfant, c'est-à-dire que vous fondez une famille, que vous devenez le père, la mère de cet enfant, vous n'êtes plus tout à fait la fille, le fils d'eux. Et donc, il y a quelque chose qui vous oblige, d'une certaine manière, à sortir de l'enfance et de l'adolescence et à devenir adulte. Grosso modo, oui, comme dirait David, grosso modo, c'est vrai pour tout le monde, sauf à la marche. D'accord. Donc voilà de quoi on s'occupe, nous. Et alors, en effet, moi, depuis que j'ai la responsabilité de ce service, j'ai eu à faire face à quelque chose qui est une évolution démographique, de santé publique, épidémiologique, effarante, quoi. C'est que Philippe, lui, pendant tout un temps, il s'est occupé beaucoup des psychoses, de l'anorexie, de la boulimie, bien sûr, mais des psychoses. Et Dieu seul sait si c'est extrêmement difficile et dur, ça. Mais il avait des névroses, des psychoses, des choses assez claires, quoi, en termes de structure. Et arrivé avec nous, les jeunes qui ont vieilli depuis, les borderline, les états limites, les cas limites, les fonctionnements limites. Un truc qui n'est pas névrotique. Ce n'est pas une conversion hystérique avec une paralysie qui semble vouloir dire quelque chose. Un symptôme signifiant, la secrétaire qui paralyse son bras. Très bien. Ce n'est pas un abus sexuel qui devient aveugle avec une amorose parce qu'il ne veut plus voir, il ne veut plus ouvrir le couvercle. Ce n'est pas une névrose obsessionnelle avec des idées obsédantes qui tournent. Ce n'est pas une phobie des couteaux, des ascenseurs, des serpents. Enfin, des choses assez simples, quoi, où on perçoit un sens derrière. Non, c'est des passages à l'acte, passages à l'acte, passages à l'acte. C'est-à-dire impulsivité, émotionnalité à fleur de peau, extrêmement à vif, qui prennent tous les toxiques possibles, y compris alimentaires en mangeant pas ou en mangeant beaucoup, qui prennent tous les psychotropes possibles et n'importe comment, qui sont abonnés aux jeux vidéo internet et qui sont enfermés dans qui sont enfermés dans leur chambre à faire des jeux vidéo. Donc, petite publicité, oui, on fait un colloque là-dessus à la rentrée en septembre, parce que ça devient un problème de santé publique majeur. On n'est pas au niveau du Japon. Au niveau du Japon, c'est 1,3 million d'adolescents enfermés dans leur chambre à faire des jeux vidéo et tout un tas de choses. Ils ne veulent plus sortir, avec un taux de suicide effarant. Donc, il ne faut pas exagérer. Un gosse qui s'enferme, même ça, c'est déjà inquiétant. Donc, le retrait, le repli, le retranchement, le l'ikikomori japonais, ça commence à être flambant. Bref, on a des psychopathologies qui s'expriment par des passages à l'acte, par une externalisation extrêmement agressive pour eux, mais aussi agressive pour la famille, pour la société, pour les soignants. Et c'est pas la même chose à gérer. Le psychotique est dans le repli, mélancolique, enfermé, ou qui est dans son délire. L'anorexie qui ne mange pas, il faut aller la chercher pour la sortir de cet enfermement. Là, il faut courir après pour les amener à éviter qu'il n'y ait des accidents ou des passages à l'acte suicidaire. Donc, on a changé la structure du service en conséquence pour faire face à la demande. Alors, je vous présente le service assez rapidement parce qu'à mon avis, c'est une façon de comprendre d'où émergent les théorisations qui vont arriver. D'abord, c'est un service qui est au sein d'un établissement hospitalier où il y a toutes les spécialités que vous voulez. Ça, c'est très important parce que Dieu seul sait qu'on a besoin de nos collègues. La médecine, la réanimation, l'orthopédie, ils viennent très régulièrement parce qu'il y a de la casse, parce qu'on est à la limite, parce qu'il y a des passages à l'acte suicidaire, parce qu'il y a des anorexiques à 25 kilos. La biologie, le somatique, la médecine, c'est fondamental. On ne va pas tarder à parler d'esprit, de psychologie, de fantasmes, de représentation, mais je vous assure qu'à 25 kilos, vous n'avez pas de fantasme, de représentation, si ce n'est de penser à la nourriture en permanence. Quand vous êtes sous crack, vous pensez pas particulièrement à des choses qui permettent d'être travaillé pour avancer. Non, vous êtes dans une obdibulation de la conscience totale. Ce n'est pas la peine d'allonger ou de parler à un crack. Il faut d'abord le sevrer pour lui permettre d'être avec vous en conscience. Freud a toujours dit qu'il n'y avait pas d'interprétation inconsciente. Le sujet doit être présent, vivant, en conscience pour parler avec lui. Sinon, ça n'a pas de sens. Bon. Donc, le fait que ce soit dans un établissement où il y a de la médecine est fondamental. Deuxième chose, encore avant même de rentrer dans cet établissement, vous avez un département mère-enfant, une maternité, de la PMA. Ça, c'est très, très important parce qu'une des choses que nous avons développées, c'est de mettre des psychiatres en maternité et en infertilité, en PMA. Vous me direz quel rapport avec les borderline ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. La prévention primaire des sujets qui vont être borderline à l'adolescence, c'est là. C'est lorsque vous voyez des familles monoparentales. Là, pour le coup, il y a quelque chose, non pas de prédictif, mais je mesure mes propos, les familles monoparentales sont pourvoyeuses de manière massive de psychopathologie, si ce n'est de psychiatrie, pour leurs enfants. Ce n'est pas une attaque, évidemment, des mères seules, c'est une défense des mères seules. C'est-à-dire qu'une mère qui est abandonnée par son mari, son homme d'un jour, quelle que soit la façon dont cet enfant a été fait, y compris en PMA, elle est dans un chiffre 2. Et le chiffre 2 est un chiffre tragique. Le chiffre magique, c'est le chiffre 3. Y compris avec deux femmes ou deux hommes, ce n'est pas la question. Mais le chiffre 2, il est tragique. Pour la simple et bonne raison que la gestion des enfants, ça peut être idyllique, une lune de miel pendant toute l'enfance, dans une symbiose, fusion, indifférenciation. Et puis à l'adolescence, vous allez voir comment ça va se différencier. Et là, ça va être la guerre, le tragique. Et quand on est deux, on n'a pas la possibilité d'avoir quelqu'un, un intercesseur, c'est-à-dire vous, puisque vous allez faire ça, puisque ça n'a pas été fait, vous et moi, un intercesseur, un tiers différenciateur, diffracteur, qui puisse écouter l'un sans que l'autre soit présent, entendre tout ce que ce sujet a à dire de l'autre, à la fois qu'il le déteste, mais ça c'est facile, mais surtout qu'il l'aime et qu'il ne peut pas lui dire. Voilà. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est des psychiatres et des psychologues pour former les sages-femmes, parce que c'est elles qui sont en contact. Et c'est elles qui dépistent un certain nombre de situations familiales à risque évidentes. La femme est seule, abandonnée dans un contexte socio-économique catastrophique, elle est toxico, elle fait un syndrome de manque, elle est délirante, elle est mélancolique, elle est dépressive. Enfin bon, c'est du lourd, c'est pas du dépistage fin. Eh bien là, pour éviter l'évolution sociétale qui est que les femmes doivent accoucher en 2 jours et sortir, c'est-à-dire comme Rachida Dati, eh bien non, un certain nombre de situations à risque doivent, la société devrait permettre que, au moins que le psy débarque, arrive et trouve une solution d'un suivi en ville, voire une unité mère-enfant dans les cas catastrophiques. Sinon, là aussi c'est assez simple, le développement de l'enfant, le développement cérébral, psychique, affectif, pulsionnel, amoureux, mais cérébral aussi, s'il ne se fait pas avec un tuteur de développement, c'est-à-dire là en l'occurrence une mère qui va suffisamment bien, dans un contexte qui la sécurise, si on lui dit « démerde-toi, c'est une période sacro-sainte, la Vierge Marie s'est bien démerdée, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas », ça ne va pas le faire. Donc je suis décidé, avec d'autres, Boris Cyrulnik l'a été invité pour le grand débat par Emmanuel Macron, et il lui a dit une seule chose, puisqu'il avait 15 minutes pour lui dire, la périnatalité des psys là. C'est là que ça se joue. C'est une évidence. Parce que ça va très vite. Ne croyez pas qu'un certain nombre de pètes, de manque, d'absence, de carence, de maltraitance, de négligence, de misère, de détresse, n'ont pas d'impact sur le cerveau et sur la construction de l'identité. C'est pas vrai. Bon, très bien. Bref, juste à côté de la maternité, donc, vous traversez un peu et vous arrivez dans le service. Donc, vous rentrez dans le service et là, à votre gauche, vous avez ce qui était un hôpital de jour pour patients psychotiques avec une durée moyenne de séjour de 4-5 ans. Donc, le temps, la temporalité pour dégager quelqu'un d'une organisation psychotique schizophrénique, il n'y a plus de psychotiques, il n'y a que des borderline. Il y a 30 places, mais il y a 40 personnes qui sont là de manière séquentielle entre 9h et 17h. Alors déjà, ça vous dit 2-3 choses. Un, c'est que les services de psychiatrie sont débordés par la pathologie borderline, qui constitue près de 40 à 50% des consultations et près de 20 à 30% des hospitalisations. D'accord ? Donc là, j'ai 30 places et j'ai 40 personnes. Deux, ça vous dit autre chose, c'est que les borderline, les états limites, les fonctionnements limites, les cas limites, ce dont on parle, les troubles du comportement, les addictions, on va préciser. Deux, ça vous dit, ça, l'expérience, et c'est vrai dans tous les services, ce n'est pas particulier au mien, c'est que vous avez intérêt à faire du séquentiel, c'est-à-dire rentrée, sortie, c'est-à-dire trouver un rythme pour les accompagner, qui ne soit pas trop près, mais pas trop loin. Les hospitaliser, ça fait sauter le service assez rapidement et ils ne supportent pas d'être enfermés, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont plus de toxiques, plus de drogue, plus d'aliments et qu'ils veulent sortir pour en prendre, d'accord ? Mais pour tout un tas d'autres raisons. Donc, ce n'est pas des trucs cadrés, fléchés, on rentre, on sort, non. C'est vraiment s'adapter au rythme du patient qui est un rythme frénétique, pulsionnel, à vif et qui témoigne beaucoup plus de sa désorganisation que son organisation. Ça veut dire qu'il y a des jours, ils ne viennent pas, des jours, ils viennent, ils viennent une heure, ils s'en vont, ils fuguent, ça bouge, ça bouge considérablement. Bon. Alors, puisqu'on est là, vous voyez aussi 2 choses assez vite dans cette unité. Vous voyez, quand vous rentrez dans le service, vous voyez tout un tas d'œuvres, si ce n'est de production, de création, qui appartiennent aux patients. C'est-à-dire qu'une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a jeté tout ce que le ministère nous avait donné de posters. Vous savez, les posters, toujours les mêmes, qu'il y a dans tous les hôpitaux, qui ne veulent rien dire, qui sont en une dimension, qui ne sont pas incarnés, qui ne sont pas vivants, et qui vous promettent un paysage de mer, un port de mer, enfin bon. Donc on a enlevé ça et on a demandé aux ados d'habiter le lieu. Le lieu, c'est-à-dire la maison, c'est-à-dire la matrice, c'est-à-dire le foyer, c'est-à-dire le centre. Bon, vous pouvez appeler ça, là où vous travaillez, un foyer, un centre. Moi, j'appelle ça une matrice et j'appelle ça même une maison. Et puis, on va aller un peu plus vite, c'est même une mère, quoi. C'est un lieu où on va s'occuper des adolescents. Et très rapidement, il va être, dans la grande majorité des cas, un lieu où des choses se sont passées qui ont pu réconforter, consoler, réparer, restaurer des enveloppes, C'est une chance considérable, mais c'est un risque majeur puisqu'ils vont être attirés à rester là, à revenir au foyer, au centre, comme ils sont attirés à l'extérieur après avoir fait des conneries, à retourner chez leur mère. Quand vous avez un gosse qui fugue ou qui a fait une connerie et que les flics le cherchent, il suffit de dire aux flics qu'il est chez sa mère. Dans 90% des cas, il est retourné au foyer, au centre, là où il a, à partir duquel il a satellisé. Rimbaud a parcouru le monde entier, il a fait une bagatelle de 45 fugues, il a passé son temps en permanence à partir de chez lui et il est toujours revenu chez lui. D'accord ? À chaque fois, c'est pour revenir chez lui, y compris pour mourir et pour être enterré dans le caveau de sa mère. Donc, vraiment, il y a un fil élastique qui les fait partir très loin, mais ensuite revenir. Et ils vont si loin parce qu'ils ont peur d'être trop près. Bon. Bref, il y a une dynamique particulière avec, alors, une importance, et là, c'est un point de vue, c'est une opinion, ça se discute, tout comme l'opinion de notre ami David. Moi, je crois que les médiations culturelles, ce que je viens de dire, c'est-à-dire les sculptures, les peintures, les poèmes, les robes, les ateliers d'ordinateur, la musique, enfin tout un tas de choses que vous voyez dans cet espace-là, qui sont produits par les patients, c'est une chose essentielle, vitale. C'est même l'élément majeur du soin. C'est une création. C'est la création d'un nouveau monde, d'une néo-réalité, d'une autre vérité que celle qu'ils ont eu à vivre, qui n'a pas été terrible, on va y venir. Et bien sûr qu'elle est sombre, bien sûr que ces sculptures, ces tableaux, ces peintures, tout ça n'est pas très gai, mais c'est quelque chose qu'ils ont pu produire dans un fantasme d'auto-engendrement, qui est leur vérité à eux. Bon, la fête de la musique va arriver, comme chaque année, ça va être toute une journée complète où tout le monde va être en chœur, chanter, créer, enfin il y a tout un tas de choses qui vont se faire. Bon. Donc les médiations culturelles, la possibilité de laisser au sujet que vous allez soigner, ne vous inquiétez pas, il va avoir des médicaments, des contraintes, tout un tas de choses, mais quand il ira suffisamment bien qu'il puisse avoir une page blanche, non pas pour la blanchir, mais pour l'assombrir de toutes ses pensées, de tout ce qui n'arrive pas à se remémorer, de toutes ces fictions, de toutes ces vérités dont il ne sait plus si elles ont eu lieu ou pas, s'il a été violé ou pas, si c'est lui qui l'a inventé puisqu'on ne le croit pas, comment ça s'est passé, de tout ce bordel, de tout ce chaos, de tout ce magma. Il faut qu'il le dépose quelque part. Les médiations culturelles, c'est pour ça. Très bien. Autre chose, à côté de cette unité, vous avez donc une unité de médiation corporelle. C'est-à-dire massage, relaxation, psychomotricité, sport, PAC, des enveloppements humides. Bon. Bref, on s'occupe du corps de ces adolescents. On s'occupe du corps, c'est de la psychiatrie, et pourtant on s'occupe du corps de ces adolescents. Il faut dire que le corps est dans des états effarants. Les scarifications, les automutilations, les tatouages, les piercings, les bras cassés, enfin... Ils se font très très mal, ils sabotent beaucoup leur potentialité et le fait d'avoir des femmes en général, des femmes d'âge mûr en général, qui savent pouvoir s'occuper de ce corps, c'est-à-dire de le materner, de l'envelopper, de l'accorder, de le calmer, de l'apaiser, c'est considérable aussi. Voilà. Donc on est toujours au rez-de-chaussée. À votre droite, vous avez un département de recherche, donc nous avons fait beaucoup d'études sur les patients limites, borderline, pour voir s'il y avait un certain nombre de lignes de force, et je ne vais pas tarder à vous les dire. Bon. La recherche, c'est très important parce que ça permet de voir sur une cohorte très importante qu'il y a quelque chose de terrible en psychiatrie, c'est qu'ils finissent tous par se ressembler. Il a raison, David. Il veut qu'il y ait une possibilité ouverte que les gens puissent s'en tirer. Il veut qu'il y ait une singularité. Il veut qu'on fasse attention à la vie de chacun et qu'on ne catégorise pas, qu'on ne dit pas les borderline, la psychiatrie. Il a raison. Sauf que l'expérience est la suivante. Tous les médecins vous le diront, et les psychiatres en particulier. Très vite, quand vous êtes rentré dans une conduite, celle-ci, c'est elle qui vous organise, c'est celle qui vous fait. Et il n'y a pas plus ressemblant d'une anorexie qu'une autre anorexie. Elles ont des histoires très différentes. Au bout de 1 an, 2 ans d'anorexie, c'est les mêmes. C'est les mêmes physiquement, c'est les mêmes dans leur fonctionnement. C'est-à-dire que de ne pas manger d'être en état de faim permanent vous fait penser, rêver, fantasmer de quoi ? De nourriture, de vide, de plein, pas de je veux faire cinéma, je veux faire coiffure, esthétique. Vous, bon. Tous les toxicos finissent par se ressembler. D'accord ? Voilà. Donc cette question centrale de faire attention à l'homogénéisation de l'être par la conduite est fondamentalement importante. C'est la phrase de Henri Hay, la maladie mentale, c'est une pathologie de la liberté. Le sujet a perdu la liberté de choisir, la liberté de choisir d'être libre et de pouvoir faire ça bien, mal. La question ne se pose pas. Les malades mentaux, à un certain moment, sont en pilote automatique. Ils font ce que leur comportement leur induit de faire ou ce que leur nouvel équilibre biologique leur induit de faire. Et nous, nous voulons les dégager de ça. La recherche, c'est ce qui permet de montrer que sur ces 100 patients, vous voyez les mêmes choses, quoi. C'est pas qu'ils sont pas singuliers, c'est que c'est la maladie qui décide, c'est plus le malade. À côté de la recherche, pour probablement compenser, on a mis le département des assistantes sociales et des éducateurs. Bon, ça vous concerne plus précisément, mais je ne vais pas le développer parce que vous le savez, enfin un certain nombre d'entre vous, j'imagine, aussi bien si ce n'est mieux que moi. Mais bon, ce sont des personnes d'une importance capitale, quoi. Moi, je me rappelle des patients quand ils reviennent. J'ai une petite blessure narcissique qui me griffe, qui me pince, qui pique, comme disent les ados à chaque fois. Donc les gosses reviennent 10-15 ans après. La première chose qu'ils me demandent, c'est où est l'assistante sociale ou l'éducateur, c'est-à-dire celui qui était avec, qui a accompagné pour faire le projet, qui a tenu la main, qui a marché, voilà. Pas celui qui a rencontré dans le bureau et qui a pensé. Bon. Le faire avec, ça c'est Philippe Jamais aussi, faire avec. Pas simplement discourir, dire ce qu'il faut faire, faire avec. Donc les assistantes sociales, les éducateurs, c'est fondamental. Nous avons une structure pas loin d'ici, à Bastille, qui s'appelle ETAP, que j'espère que vous connaissez, sinon il faut que vous alliez voir. Une structure que nous avons mise en place avec la PJJ, et bientôt la ZE, quand ces deux-là pourront discuter. Donc, une structure qui est quoi ? Qui sont des psychiatres, des éducateurs. Et psychiatres et éducateurs sont en binôme, mais ils font ce que Philippe Jamais avait recommandé, c'est-à-dire qu'ils vont en banlieue, le binôme, pour aller chercher le gosse dont on pense qu'il pouvait s'en tirer et qui est enfermé dans sa chambre depuis 2 ans, 3 ans et qui ne veut pas sortir. Et ils discutent de l'autre côté de la porte pour le faire sortir. Donc on n'attend pas la demande, on n'attend pas l'espoir qu'il va s'en sortir ou pas. On n'en sait rien, on sait simplement que lorsque le symptôme prend cette intensité, c'est que c'est grave. Même si ce n'était pas grave avant, le symptôme aussi intense que de rester enfermé, de ne pas sortir, de ne pas avoir de vie affective, sociale, scolaire, professionnelle, c'est un indice de gravité majeure. Donc la structure ETAP, elle fait des choses compliquées. Elle va chercher les patients chez eux ou même à l'école. Elle les désencastre d'un auto-renforcement du symptôme. Et ensuite, elle a développé la walking thérapie. Ça, c'est Jean-Christophe Macota. Donc, il marche le long de Bastille, là, les quais, là, et il parle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ces gosses-là, les allonger en psychanalyse, ce n'est pas possible. Soit ils décompensent, soit ils vous démolissent le divan, soit ils régressent, ce n'est pas possible. Même assis, c'est déjà compliqué. Eh bien, c'est à nous de nous adapter dans ce rythme-là d'accordage. Bon. Bref, voilà, les éducateurs, les assistantes sociales, évidemment, tout ça est fondamental pour aller chercher, pour aller au-devant d'eux. Très bien. Alors, vous montez d'un étage, vous avez une unité de consultation, 2500 pour l'unité, pour le CMP, 3500, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients, comme tous les services, qui sont tous débordés, qui n'ont pas de place, avec des délais d'attente effarants. Il y a un vrai problème majeur de délai d'attente, quoi. Les gens téléphonent, ils tombent sur un répondeur qui les envoie balader ou qui les fait tourner en rond. Ils débarquent aux urgences qui sont pleines, ils attendent des heures. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Alors que je pense qu'il faut répondre au bon timing, au bon tempo et même aller chercher. Là, on a un vrai problème. Toujours est-il qu'on fait comme les autres, on fait ce qu'on peut et que vu le nombre de patients qu'on a, on a des délais d'attente qui sont plus ou moins conséquents. Bon. Toujours est-il que c'est simplement pour vous dire que là, il y a 80% de borderline. C'est vraiment la spécificité du service. C'est devenu la spécialité du service. Très bien. À gauche, vous avez une unité de crise, une unité d'urgence. Bon, c'est là où on prend en charge les complications aiguës de ces patients limite borderline. Ça me permet de vous donner quelques chiffres. 80% de ces patients limite borderline, impulsifs, émotionnels, qui ont saboté leur scolarité, qui s'automutilent, 80% sont toxicaux de quelque chose, addicts à quelque chose. Pour les filles, assez souvent anorexie-boulimie, mais associée dès que la boulimie apparaît avec consommation d'alcool, mais pas l'alcoolisme mondain, courtois, hédoniste, hein, c'est le binge drinking, c'est-à-dire l'alcool de défonce, c'est-à-dire le liquoré, la bouteille, c'est pas pour goûter, c'est pas même pour s'enivrer, c'est pour se défoncer. Se défoncer de quoi ? De quelque chose qui risque d'enfoncer, c'est-à-dire de la reviviscence, pas de la réminiscence, on n'est pas dans l'hystérie. L'hystérie se rappelle le traumatisme et elle converse en se paralysant. Là, le borderline, il revit l'attentat traumatique qu'il a vécu dans l'enfance et pour l'enfoncer, mettre le couvercle dessus, il se défonce. C'est pas compliqué. Donc 80%, c'est des toutes les toxiques possibles, tous les psychotropes possibles, les alcools, les troubles alimentaires, les jeux vidéo. Bon, et là, l'unité de crise participe avec un addictologue très spécialisé dans le déverrouillage toxique. Ça ne va pas partir tout seul, ce n'est pas vrai. À déverrouiller tout ça pour retrouver le sujet derrière le toxique. Bon. Alors, en dehors de ces complications qui sont les addictions, qui sont extrêmement fréquentes, vous avez évidemment tous les passages à l'acte suicidaire. Et là, vous avez 15% de passages à l'acte suicidaire et jusqu'à 20% de suicides réussis, entre guillemets, sur une cohorte suivie à 20 ans. C'est du lourd. Il y a des morts. Et la plupart du temps, pas forcément par volonté de mourir, mais par conduite à risque qui entraîne des accidents. Le dernier, il n'a pas trouvé de place en psychiatrie, vu qu'il n'y avait pas de place en psychiatrie dans tout Paris. Et donc, il était en neurochirurgie parce qu'il s'amusait, c'est le nouveau jeu à la mode, de monter sur la rame de métro pour faire rire les copains à côté. Et il s'est fait scalper par le haut. Bon. Pas moyen de lui trouver une place en psychiatrie. Il est resté en neurochirurgie pendant 3 semaines et les neurochirurgiens ont gueulé parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Non. On est dans un état de détresse par rapport au placement. Donc, ces passages à l'acte de sauter du haut de la maison dans la piscine et de la rater, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer, ces conduites à risque, ces recherches de sensations qui ne sont pas des rites d'initiation, qui sont des passages à l'acte, qui ne sont pas des actes de passage. Il y a des lacaniens qui commencent à jouer sur les mots. Ce passage à l'acte est un acte de passage, oui. Demandez à Girardon, Nicolas, quand le gosse a sauté et qu'il a raté le truc et qu'il est paraplégique, si c'est un acte de passage. Oui, mais c'est le dernier, hein. Après, il n'y en a plus. Il y a une réalité des conséquences traumatiques. Bref, l'unité de crise accueille tous ces suicidants, ces suicidaires, ces suicidés, tous ces états de mal boulimiques chez la fille, n'oublions pas les filles, qui mangent pendant 3 jours sans s'arrêter, qui se remplit. Qui se remplit de quoi ? Qu'importe, elle ouvre le frigo, elle prend ce qu'il y a, elle ne le fait pas chauffer, c'est encore gelé, congelé, elle mange, elle remplit un vide intérieur. Elle pourrait métaphoriser en remplissant son vide par une pensée, mais la pensée lui ramène au traumatisme, donc elle démétaphorise, c'est-à-dire qu'elle est dans la réalité et qu'elle remplit ce qu'elle croit être un vide intérieur en se remplissant avec l'aliment. Bon, très bien. Donc, cette unité de 8 lits, extrêmement difficile, avec des soignants formidables, parce que c'est une tension permanente, vous pouvez l'imaginer, elle gère les conséquences de... Bon. Très bien. Alors, je reviens un peu sur l'unité de jour, parce que l'unité de jour en bas, les conséquences qu'elle gère, elle, c'est la déscolarisation qui est assez rapide, quoi, avec tous ces passages. Ils se font virer de leur établissement, ils ratent pendant 3 mois, bon. Le problème avec la structure scolaire telle qu'elle existe actuellement, c'est que vous ratez une année, ça va, vous ratez 2 années, ça y est, vous êtes parti vers une voie de garage. Donc, le travail de l'unité de jour en bas, c'est un travail dans une temporalité plus longue que l'unité de crise. Après leur avoir permis de survivre à, leurs affres et tourments, de ne pas être trop intoxiqués. Quand ils descendent à l'unité de jour, eh ben, on les ramène à l'école, à l'hôpital, à une école qu'on a à côté. Enfin bon, on essaye assez rapidement, ou aux soins-études, on essaye assez rapidement de les remettre dans un circuit scolaire, pas par volonté particulière qu'ils réussissent à l'école, quoique c'est parce que si on ne le remet pas dans un rythme normal, avec une scolarité et un avenir, un idéal qu'ils retrouvent, s'ils ne retrouvent pas cet idéal, une vocation, une envie, alors vous aurez traité le présent, mais comme vous n'aurez pas anticipé le futur, ils vont rater leur école dans une voie de garage, ça va aggraver leur mésestime personnelle de ne pas avoir atteint les idéaux des parents ou les leurs. La dépression va réenclencher immédiatement les conduites addictives pour l'embrumer, vous comprenez ? Donc vous traitez ici et maintenant et dans le futur, sinon c'est un tonneau des Danaïdes, vous ne sortez pas. Très bien. Alors ensuite, alors j'ai oublié, pardon, l'unité de consultation est là, c'est elle qui alimente les hospitalisations, c'est elle qui alimente l'unité de jour, c'est elle qui alimente quelque chose de fondamental. L'unité de thérapie familiale. C'est le service qui a mis le paquet là-dessus, puisqu'il a 3 couples de thérapeutes familiaux, puisqu'il a 2 groupes de parents, puisqu'il a maintenant développé une unité de thérapie multifamiliale. L'idée centrale, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une opinion, c'est un fait, on l'a démontré par un certain nombre d'études, si vous vous occupez de la famille, le patient va aller mieux. Si vous vous occupez du contenant, le contenu va aller mieux. Et le contenant, on va voir qu'il a des soucis. Alors, une fois que vous avez dit ça, allez vous occuper d'un contenant qui ne veut pas venir, qui est séparé, qui est divorcé, qui est haineux, d'accord. Mais vous y allez quand même, même si c'est dur, surtout si c'est dur. Vous savez que le facteur pronostic majeur de l'évolution de ce gosse, c'est l'engagement ou pas de la famille. Et cet engagement dépend aussi de ce que vous avez déployé comme force pour faire en sorte de maintenir un engagement, alors que c'est quand même assez éprouvant avec un certain nombre de familles. Bon. Donc, la thérapie multifamiliale, c'est pour vous dire où on en est, comme les délais sont très importants, malgré qu'on ait 3 couples de thérapeutes et des groupes de parents, la thérapie multifamiliale, c'est de voir plusieurs familles en même temps, avec 2 seuls thérapeutes, et c'est les familles qui se soignent, d'une certaine manière. On en est là, pour faire face à la demande, par rapport à l'idée qu'on a, que si vous ne traitez pas la famille, c'est pas la peine. Vraiment. L'idée que, tout seul, avec un patient, vous allez y arriver sans travailler, même si vous avez, même et surtout si vous avez eu des familles défaillantes, dysfonctionnantes, maltraitantes. Si vous pensez que d'être généreux, d'être humain, de faire tout un tas de choses à ces gosses qui n'ont pas eu, c'est ça qui va les guérir, vous mettez le doigt dans l'œil, c'est ça qui va les tuer. S'ils voient que vous pouvez être de meilleurs parents que ceux qu'ils ont eus, il n'y a pas photo, ils vont revenir à leurs parents, et faire des passages à l'acte pour vous mettre à distance et pour vous montrer votre mégalomanie, parce que ce qui est important pour ces gosses, ce n'est pas la recherche du bonheur avec quelqu'un d'autre, c'est de retrouver la continuité avec ce qui a eu lieu dans leur enfance, y compris si ça a été discontinu ou traumatique. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à nous emmerder, à continuer à se faire traumatiser, à chercher à retourner sur les lieux où il y a des risques de viol, à chercher à retourner sur les lieux où il y a des risques de trauma. Ils aiment. Ils ont besoin d'être en continuité avec ce qui a présidé, prévalu dans leur enfance. Ils ont la nostalgie, y compris du malheur, etc. etc. Bon. Donc la famille, c'est fondamental. Je monte d'un étage, vous arrivez à une unité 30 lits, où vous n'avez que des borderline, avec 20 patientes anorexiques gravissimes et 10 patients plutôt garçon, plutôt agité, plutôt automutilateur. Bon, voilà. Voilà pour une présentation du service. Alors, revenons en arrière, à partir de là, et donnons des chiffres, quoi. Je ne vais pas tous vous les donner, vous les vérifierez sur le bouquin ou ailleurs, c'est tous les mêmes. Dans 70 à 80% des cas, ces patients ont au moins un parent qui souffrent de troubles psychiatriques sévères. ce qui doit vous laisser encore plus humble que vous ne l'étiez au début, puisque ce parent qui souffre d'un trouble psychiatrique sévère, c'est celui que vous avez traité il y a longtemps, ou que les collègues ont traité. Oui. Ben oui. Et que vous n'avez pas guéri. Vous l'avez amélioré considérablement. Un, il n'est pas mort, 15 à 20% des cas. Deux, je sais, il doit avoir une insertion. Il a rencontré quelqu'un, il a des enfants. En général, ça apaise, mais oui, mais il y a des failles. Il y a des lignes de failles, de fractures qui sont là et qui sont réveillées par la paternité. C'est très compliqué, la paternité, la maternité. Ça réveille dans cette ligne de fracture ancêtre. Bon, très bien. Dans 50% des cas, un des deux parents a fait une TS. Il n'y a pas de secret hein, quant à la question du choix, entre guillemets, du mode d'expression de la souffrance du sujet. Il y en a qui passent leur temps à mettre des écouvillons dans le nez des patients en psychiatrie, ça c'est le DSM, pour savoir si ce n'est pas une vulnérabilité génétique. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Mais en clinique, vous voyez qu'une fille qui a un comportement alimentaire perturbé, anorexique ou boulimique, si vous regardez la mère, la grand-mère, il y a quelque chose. Si vous avez un gosse qui fait des passages à l'acte suicidaire, s'il y a un antécédent de TS dans la famille, il y a quelque chose. S'il y a un père totalement alcoolisé qui se met dans des états catastrophiques et que le gosse prend de l'alcool, il n'y a pas besoin d'aller, je mets des guillemets par rapport à ce qu'on ne se connaît pas, donc je ne connais pas tout le monde. Il y a des micro-climats dans certaines régions. Donc l'alcool, les toxiques, l'alimentation, les passages à l'acte suicidaire, attention, les enfants regardent. Ils regardent quoi? Les parents. Ils regardent quoi dans les parents? L'état dans lequel on se met. C'est aussi simple. Un patient me disait qu'il avait fait une TS gravissime parce qu'il voulait rejoindre son père. Son père où? Là où le père avait été lorsqu'il avait fait sa TS. L'anorexie qui cherche sa mère, ils sont dans la cuisine appartient à une seule des deux, c'est elle qui fait le repas et pas l'autre, qui mange, qui grossit, qui se regarde, ils sont dans une rivalité comme ça, hargneuse, haineuse, parce que l'un regarde l'autre. Si la mère regarde sa fille avec un regard de dédain qui dit tu es grosse, tu es moche, regarde-moi comme je suis fine, c'est parti, l'autre va maigrir et elle va gagner, elle arrive à 25 kilos. Et puis, entre-temps, ils auront essayé d'échanger les jeans, d'échanger les cosmétiques. Ouais, voilà. Les 68 arts qui continuent à se shooter au H, et qui, voire même qui en donnent à leur enfant avec, qu'est-ce que vous voulez que le gosse fasse, si ce n'est d'aller voir ce que c'est que cet état d'exaltation dans lequel ça met. Bon. Pas de culpabilisation particulière, une responsabilisation. Ces gosses-là s'identifient à leur environnement. Heureusement, il y a l'identification à leur père, à leur génération. Et ils sont en train de nous montrer qu'ils sont en train de se dégager de la filiation verticale parce qu'ils commencent à préférer la filiation horizontale. Par exemple, sur le climat, ils en ont marre de ce que nous, on leur raconte sur le fait qu'on va leur donner une planète propre. Et la gosse que j'aime beaucoup, là, de 14-15 ans, qui se balade, elle dit, bon, vous n'y arrivez pas, vous les adultes, nous, on va le faire. Ça, c'est bon. De se filier comme ça horizontalement, parce que l'authenticité, la vérité des adultes n'est plus ce qu'elle était, et qu'on a compris qu'ils étaient non pas des super-héros, mais des hommes avec un certain nombre de défaillances. Bon. Donc moi, je dis que les facteurs l'OMS a dit que les 5 facteurs environnementaux majeurs des troubles psychiatriques, en particulier borderline, c'est pauvreté, niveau socioculturel bas, famille monoparentale, exil, migration, enfin bon, les facteurs environnementaux. Le contenant, l'enveloppe, il y a des trous partout. Le tuteur de développement n'est pas bon, donc le gosse ne se développe pas suffisamment bien. Nous sommes responsables. Nous sommes en défaillant, en difficulté, en détresse, c'est pas simple. Bon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. En tout cas, eux, ils vont nous chercher là où ça fait mal. Et ils vont nous chercher avec des symptômes qui reproduisent en les calquant et en les inversant ceux dans quoi nous avons versé. C'est ça que, bon. C'est pour ça que ce que je vous ai dit tout à l'heure, la thérapie familiale, multifamiliale, enfin la prise en compte de la famille, de cette détresse, pas en les culpabilisant. Non, la thérapie familiale, c'est quelle est la part dans la famille qui participe à... Évidemment que le sujet aussi a sa part personnelle et il en fait quelque chose. Et de toute façon, il a intérêt à être nietzschéen, c'est-à-dire à faire quelque chose... de ce qu'on a fait de lui. Il ne va pas passer sa vie à se plaindre d'avoir un environnement traumatique et de ne pas avoir pu faire autre chose. Ça ne sert à rien. Il va falloir qu'il se dégage Mais déjà, par exemple, parvenir, ce qu'on fait tous les jours avec la thérapie familiale, quoi, à quelque chose d'aussi simple que « mais madame, au vu de la dépression qui vous assaille, que vous avez connue lors de la maternité et qui vous reprend là parce qu'il vous cherche là où ça fait mal, pourquoi vous n'iriez pas voir quelqu'un ?» Et hop, le gosse est soulagé d'un poids parce que la mère va pour elle-même travailler. Même chose pour le couple, le père, le petit frère, voilà. La thérapie familiale, ce n'est pas un règlement de compte sauvage, ce n'est pas ce que disent les journaux, les psychanalystes qui attaquent les parents, enfin toutes ces conneries. C'est simplement de répartir, de différencier les poids pour que chacun puisse reprendre ses angoisses et les travailler. Parce que ce qu'on sait en psychiatrie, c'est que lorsque les angoisses se mélangent de génération en génération, c'est détonnant. C'est déjà très difficile de gérer une angoisse dont on sait qu'elle provient de soi-même. Mais si en plus vous avez le sentiment que vous êtes angoissé sans que vous ayez le sentiment que cette angoisse vous appartienne, mais qu'elle appartienne à l'histoire d'un de vos parents qui vous tombe dessus, alors ça, c'est encore plus difficile. Et oui, c'est l'évolution humaine, pour le meilleur comme pour le pire, nos parents calquent sur nous des peurs, des idéaux, dont on a plus ou moins de mal à se dégager, afin d'advenir je, c'est-à-dire de se subjectiver, de faire la part des choses, de faire l'inventaire, de dire ça oui, de dire ça non, je fais ce cheminement, ce choix, c'est à moi, je le décide. Bon. Eh bien, un certain nombre de patients n'arrivent pas à se dégager d'un certain nombre de poids, de peurs, d'angoisses parentales. Ils n'arrivent pas à se séparer d'eux et ils font un truc qui sont des tentatives de séparation qui sans cesse avortent. L'anorexie, c'est quoi ? C'est maigrir de telle manière à ne pas avoir le même corps que la mère, si ça, ce n'est pas une séparation avec le corps de la mère. L'automutilation, c'est quoi si ce n'est une césure, coupure du corps issu des deux géniteurs? Le passage à l'acte suicidaire, c'est quoi si ce n'est de renaître de ses cendres après avoir quitté cette famille? Bon, d'accord. Ces passages à l'acte sont des tentatives de séparation avortées qui reviennent toujours au foyer, au centre, comme Rimbaud qui retourne chez sa mère. D'accord. Nous, notre travail, c'est de permettre que cette séparation, autonomisation, individuation, subjectivation advienne. Et le tragique de tout ça, c'est que plus vous avez une famille en difficulté, dysfonctionnante, maltraitante, et plus vous avez du mal à vous séparer. Et que ça s'explique assez naturellement. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans l'espoir, dans l'attente, que quelque chose pourrait advenir, qui pourrait réparer ce qui n'a pas eu lieu. Vous êtes toujours dans l'attente d'une réponse qui n'a pas eu lieu d'être et qui pourrait advenir. Vous ne voulez pas partir sans voir cet espoir résolu. Vous ne pouvez quitter votre famille qu'une fois que vous avez fait l'inventaire de ce qui a été favorable, défavorable, que vous savez ce que vous quittez. Mais tant que vous ne savez pas ce que vous quittez parce que vous avez une famille en détresse, dysfonctionnante, et bien vous êtes accroché dans une fatalité tragique à ce que ça se répète. Donc le travail avec les familles, le travail avec les patients, c'est d'arrêter ce symptôme qui en lui-même avait un sens, il témoignait de quelque chose, il voulait dire une séparation, mais qui n'advenait pas et qui sans cesse se répétait. Oui, c'est d'aller vers la séparation après avoir fait l'inventaire, travailler avec l'ensemble des conditions et en particulier familiales. Ça, c'est voilà, l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. Alors, je continue sur les chiffres parce que, 30% de séparation dans les 6 mois entre les parents. Près de 20% d'un enfant qui a été placé dans les 2 premières années. 30% de maltraitance, de négligence. 16,9% d'abus sexuels avérés. 16,9 d'abus sexuels avérés. 90% des cas intrafamiliaux, donc incestueux, donc plus grave. J'en passe. Il y a du lourd en matière traumatique et c'est ça dont il va falloir travailler avec les patients pour que ça puisse advenir à la conscience et que ça puisse être travaillé et qu'à partir de ce chaos, de ce désordre, un certain nombre de choses puissent se dégager pour que ce ne soit pas le symptôme qui témoigne de la manière dont le sujet essaye de se débattre. Alors, Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les différents intervenants en psychiatrie ne sont pas forcément d'accord sur la façon qu'on peut avoir de gérer ces difficultés au vu de ce que je vous ai annoncé, qui témoigne d'un travail compliqué. La majeure partie des techniques qui sont utilisées actuellement, au vu des difficultés que nous avons à faire au nombre de patients que nous avons à gérer, il n'y a pas assez de soignants, sont en effet des techniques qui, comme leur nom l'indique, sont des techniques, c'est-à-dire des techniques de traitement, c'est-à-dire de gestion, pas forcément de soins. En tout cas, on n'a pas pour tous la possibilité de soins. Je m'explique. Ce que je vais développer, c'est que le soin qu'on peut prodiguer à ces patients, au vu de ce que je vous ai raconté, c'est assez simple. Le soin, vous et moi, c'est le temps relationnel qu'on va leur consacrer. Et je ne suis pas sûr qu'on soit assez nombreux pour leur donner suffisamment de temps relationnel. Et donc, mais c'est complémentaire, il peut y avoir une gestion qui passe par déjà évitons les complications et les dégâts. Et oui, quand, je vous l'ai dit, le patient à l'adolescence revit le trauma qu'il a subi dans l'enfance, oui, dans la grande majorité des cas, il faut donner un traitement médicamenteux. Ce n'est pas une atteinte à la liberté du patient, ce n'est pas la psychiatrie sauvage, ce n'est pas la camisole chimique, ce n'est pas toutes ces conneries. Ou alors, il faut qu'on m'explique comment faire. C'est-à-dire que l'état de tension, d'angoisse, térébrante, déstructurante, désorganisante, avec crise de passage à l'acte suicidaire est tel que vous avez intérêt, dans le moment présent immédiat, à contenir. Vous pouvez contenir en restant dans la chambre avec le gosse pendant toute la journée, on n'a pas les moyens. Et même, ça ne suffirait pas, ça serait trop excitant. Non, vous donnez un produit qui n'a aucun effet étiologique, qui a simplement un effet de baisse de tension, de sédation, qui permet au sujet de se retrouver avec une conscience qui puisse fonctionner et qui ne soit pas à haut voltage. Donc c'est absolument nécessaire et indispensable. Bon, je vais vous prendre un exemple clinique pour être plus démonstratif de ce que j'essaie de dire. L'exemple clinique qui est parlant, c'est celui qui est très actuel, c'est celui de l'abus sexuel, dont je vous ai dit que près de 20% de ces patients... Bon, alors, ma consoeur qui dirige l'unité de crise, Marion Robin, que vous allez inviter l'année prochaine, parce qu'elle est vraiment en prise directe avec le sujet, et qui est une femme et qui est jeune, donc c'est une autre génération, tout ça est très important, et qui a beaucoup travaillé sur le réseau borderline et qui a sorti les études, bon, elle dit c'est 19,6% qui l'ont dit. Ça veut dire que c'est beaucoup plus. D'accord. L'actualité que vous connaissez témoigne de sorties d'antécédents traumatiques chez toutes les structures qui s'occupent d'enfants. L'église, évidemment, on pouvait s'y attendre. Le sport, évidemment, on pouvait s'y attendre. La danse, ça ne va pas tarder. Et pourquoi pas la pédiatrie et la pédopsychiatrie. Tous ceux, les enseignants, enfin, tous ceux qui sont en contact avec les enfants ne sont pas pédophiles, non. Mais les pédophiles, eux, vont là où il y a des enfants. On ne va pas rentrer dans la polémique, mais la chose essentielle, c'est que tout ça a été longtemps tu, et maintenant ça sort. Ce qui sort, c'est la réalité d'antécédents traumatiques, avérés, pas fantasmés. Même Freud, ce génie, a fait une connerie le jour où il a dit « Non, je me suis gouré. Il n'y a pas autant d'antécédents traumatiques à Vienne. C'est pas vrai que tous les pères violent les petites filles à Vienne. Non, c'est pas possible. Toutes les filles que je rencontre à Vienne me disent que leur père les a violées. C'est pas possible. Donc c'est un fantasme. Il a construit sa théorie. Bon. Mais à la fin de sa vie, il a dit « Je suis pas sûr ». Là, je pense que s'il revenait, il dirait « Je suis de moins en moins sûr ». Il y a des choses avérées. Bon, c'est une donnée anthropologique assez conséquente. Hein. C'est pas rien. Bon. Là encore, il y a des microclimats dans un certain nombre de régions. Les îles, Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez été à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Non. En Guyane, en Antilles. les îles, enfin, il y a des, la géographie, c'est aussi important que l'histoire. Les zones enclavées, les zones désertiques, bon, la proximité, promiscuité, enfin, tout un tas de choses. Donc, imaginez ce qui arrive classiquement, c'est-à-dire une adolescente pour qui tout va bien a priori et qui a été violentée, alors, de manière incestueuse, répétée, chronique, sans protection maternelle. Et puis, je ne rentre pas dans les détails sur la nature de l'effraction. Enfin, vous voyez qu'il peut y avoir tout un tas de différences quand je parle d'abus sexuels, entre attouchement par un étranger extérieur ou par le père ou par la mère ou avec la complicité maternelle ou avec viol. Tout ça est très différent. L'effraction, l'excitation n'est pas la même. Toujours est-il que le scénario, lui, est quasiment toujours le même. C'est-à-dire que pendant l'enfance, pendant tout un temps, il n'y a rien, quoi. C'est la fameuse lignée blanche de notre ami David. C'est-à-dire que oui, quand une petite fille se fait violer, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ferme les yeux et ensuite elle crie. Mais d'abord, elle ferme les yeux. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas, qu'elle s'absente. C'est-à-dire qu'elle laisse le corps et que son esprit s'absente. Ça s'appelle une désensibilisation, une anesthésie affective. C'est un mécanisme de défense pour que la tête n'explose pas. D'accord ? Mais elle engramme dans le corps la trace de cette effraction, dont elle ne sait rien parce qu'elle a une sexualité infantile, mais pas adulte. Le poison de la sexualité adulte est rentré dans le corps plus ou moins innocent de l'enfant, et il inscrit une bombe du temps. Et nous, les psychiatres d'adolescence, ce qu'on voit, ce que Marion voit dans l'unité de crise, c'est des gosses qui s'automutilent, passage à l'acte suicidaire, tous les borderline, et puis hop, parce que Marion les aide à accoucher, de ce qui s'est joué révèle un abus sexuel. Et bon, pour vous donner un exemple, c'est cette patiente qui me disait tout allait bien, j'avais mon amoureux justement, j'étais avec lui, il se rapproche, il voulait m'embrasser, et au moment où il a voulu m'embrasser, hop, j'ai vu la figure de mon père se plaquer sur son visage. Voilà, que, là, c'est ça ce qu'on appelle la reviviscence. C'est-à-dire que c'est le revécu, ou plutôt même c'est la première fois qu'est vécu le trauma. Parce que là, lorsqu'il a été acté, il n'a pas été vécu. Il a été désensibilisé. D'accord ? Le vrai vécu, c'est là, avec nous. Il y a une compréhension, un saisissement de ce qu'est la sexualité adulte, parce que la puberté est passée, qu'elle sait maintenant, corporellement, ce que... Ça, quand ça vous prend, et que ça vous désorganise, les mots, l'humanité de Marion et de son équipe, l'accompagnement, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Pendant tout un temps, oui, il va falloir contenir avec tout un tas de traitements dont je répète qu'ils sont symptomatiques pour diminuer les tensions, permettre de dormir, hein, jusqu'à ce qu'un apaisement puisse advenir et qu'on reprenne ça non pas à chaud, mais un peu à distance et un peu à froid. Voilà. Donc, il ne faut pas diaboliser les médicaments dont Philippe Jamais vous dirait que c'est un outil de liberté. C'est un outil qui permet au sujet de retrouver sa liberté de conscience, de pensée, plutôt que d'être totalement éclaté par tout ce qui lui revient et qui s'impose à lui et qui n'arrive pas à contrôler. Voilà. L'exemple que je vous ai donné, vous pouvez le faire avec d'autres sujets qui, en plus, utilisent des toxiques qui désorganisent totalement l'appareil cérébral de perception, de représentation. Il faut évidemment sevrer, et ensuite, on peut commencer à travailler pas n'importe comment. Bon, les psychanalystes ont beaucoup déconné pendant tout un temps qui continuaient à allonger les toxicomanes qui étaient complètement intoxiqués par l'héroïne. Non, c'est pas la peine de travailler à penser quelque chose avec quelqu'un qui est complètement shoot à l'héroïne. Il faut d'abord le sevrer. Les psychanalystes ont continué à avoir 3 fois par semaine des anorexiques à 25 kilos totalement azimutés. Non, dans le service... Quand elle passe de 25 à 45 kilos, on voit bien à quel point ce n'est pas du tout la même femme. D'abord, là, c'est une femme, parce que 45, elle a pris des formes, donc elle a pris des frissons, des chaleurs de femme, et donc elle pense avec ses frissons, ses chaleurs, ce corps, tandis que là, le symptôme était fait pour anesthésier, frigidifier, faire refluer tous les émois sexuels. Pourquoi ? Parce que dès qu'il remontait, le viol remontait avec. Vous me suivez ? Donc, la défense... Il faut la respecter, il faut l'assouplir pour permettre, et tout ça c'est de la dentelle et c'est difficile et c'est compliqué, bon, très bien. Alors après, une fois que vous êtes arrivé, alors, le traitement, je donne des lignes de force, hein, c'est évidemment vrai. Le traitement, si vous voulez y aller, c'est 4-5 ans. Hein. Et si vous voulez y aller, il ne faut pas y aller seul. Hein. L'éducateur, l'assistante sociale, le psychiatre, la psychothérapeute, la thérapie familiale, il vous faut du lourd. Hein. Parce que ça va être dur, ça va être long, ça va être laborieux. Bon. Et c'est 4-5 ans, donc il n'y a pas besoin non plus de se presser outre mesure. Il faut d'abord créer les conditions que le sujet soit vraiment là et que vraiment vous le rencontriez. Imaginons donc que ça advient, ça arrive à un certain moment, et là, hop, les patients reviennent en psychothérapie dans les consultations que je vous ai dit, où il y a une ribambelle de psychothérapeutes qui les voit en colloque singulier, une fois, deux fois par semaine. Pourquoi faire ? Ben, pour se rencontrer, pour échanger, pour écouter. Écouter l'histoire. C'est fondamental d'avoir ce temps d'accueil et d'écoute. Tout le monde a besoin de mettre en récit ce qui s'est passé et tout le monde a le droit de se tromper dans ce qu'il raconte. Celui qui a été traumatisé ne sait pas ce qui se passe. Ne sait pas ce qui s'est passé. Il a été saisi sur le moment, il a été médusé, il s'est défendu et puis très rapidement, la mémoire étant ce qu'elle est, les souvenirs ont disparu, se sont estompés. La fiction les a remplacés. Enfin, c'est une. Lisez le très beau livre de Philippe Lançon sur les traumas, Le Lambeau. C'est un écrivain merveilleux qui vous dit à quel point le problème du trauma, c'est que le futur modifie le passé qui engendre le présent, enfin, que c'est un chaos sans cesse. Vous devez être des oreilles attentives, des chambres d'écoute. Ce qui n'est pas simple, il faut être plusieurs parce que c'est dur, il faut faire attention à soi dans ce qu'on reçoit. Bon. Et. Vous allez accepter que quelque chose puisse être dit. Quoi. Alors là, malheureusement, c'est le bouquin sur le DSM, c'est fini, ça. On n'a plus le temps. Les consultations, en moyenne, c'est 15 minutes. Et en moyenne, le médecin vous interrompt au bout de 27 secondes. Pas simplement aux États-Unis, en France aussi. N'oubliez pas que la majeure partie des malades psy sont suivis par des médecins généralistes qui sont débordés, pas formés. Bon. Voilà, par rapport à ce que je vous dis d'un service de luxe comme le mien, où on se donne les moyens, c'est sûr que ça ne va pas forcément le faire dans d'autres endroits. Ce que je crois, moi, fondamentalement, c'est que ce travail de mise en récit est fondamental. Il faut que vous écoutiez la façon dont le sujet se raconte l'histoire. Ne cherchez pas à ce qu'ils vous disent la vérité. La vérité absolue, personne n'en sait rien sur le moment-là, tellement les effets traumatiques sont agissants. Non, ce qui est important, c'est comment il se raconte l'histoire, c'est-à-dire comment il se défend de ce qu'il a vécu en acceptant un certain nombre de lambeaux de vérité et d'autres en les rejetant. Bon, voilà. Donc c'est un travail de reconstruction. Bon. Alors, vous pouvez déjà imaginer, et puis, vous pouvez déjà imaginer que lorsque Freud le disait bien, un des pronostics les plus favorables, c'est lorsque quelque chose a eu lieu, lorsqu'il y a eu un trauma, une effraction, un viol, une maltraitance. Il y a eu ce qu'on appelle un trauma en plein. Là, dans la psychothérapie, vous allez travailler autour de ce trauma en plein. Quelque chose a eu lieu. Quelque chose s'est passé. Alors, évidemment, fondamental. Si quelque chose a eu lieu, si quelque chose s'est passé, si vous, vous êtes dépositaire de ce secret qui se révèle, la question, c'est la plainte, l'information préoccupante, le juge, tout ça, c'est fondamental d'en passer par ce tiers-là pour que ça existait. Si, pour tout un tas de raisons, comme ça s'est passé pendant des temps et des temps immémoriaux, dans l'église, mais aussi dans les services de psy, ou dans l'enseignement, c'est-à-dire on cache, on masque, c'est-à-dire qu'on dit au sujet que ça n'a pas eu lieu alors que ça a eu lieu, ça pour rendre fou quelqu'un, il n'y a pas mieux. Et ça continue, hein. J'ai reçu une patiente hier encore, ça continue, ça n'a pas eu lieu. Non pas que les gens soient méchants ou mal intentionnés, ils ne veulent pas voir. On n'en parle pas, on le masque, ça va te faire plus de mal qu'autre chose, etc. etc. Et surtout vis-à-vis des femmes, bien sûr, hein. Les hommes vis-à-vis des femmes. Le statut de la réalité de ce qui a eu lieu, la reconnaissance de ce statut, c'est-à-dire, il m'est arrivé quelque chose, je ne l'ai pas rêvé, je ne l'ai pas halluciné, je ne l'ai pas déliré, je ne suis pas folle, c'est fondamental. Donc déjà ça, bon. Et c'est terriblement casse-gueule. Si vous le faites trop vite, trop tôt, il y a des risques suicidaires du côté de l'abuseur, du côté de l'abusé. C'est compliqué. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je répète, le statut, il ne faut pas que les gens, il ne faut pas rendre les gens fous. Si quelque chose a eu lieu, il faut que collectivement, ça puisse être reconnu, perçu. Sinon, vous restez terriblement seul. Et même à un certain moment, vous commencez à vous poser la question de savoir si ça a eu lieu. Et ensuite, ça, pour attraper ça, c'est compliqué. Donc, mais si quelque chose a eu lieu, si c'est reconnu, c'est travaillé, bon, la vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire comique et tragique, merveilleuse et pathétique, vous êtes né dans ce milieu-là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, eh ben faites quelque chose de votre trauma, oui. Là, je vais vite, mais moi, je le dis, la créativité, elle vient de là. Toutes les créativités que vous pouvez voir dans tous les domaines, elles viennent de la souffrance, de la douleur. C'est fondamental. Vous pouvez transformer la douleur en appareil de connaissance, disait Paul Valéry. D'accord ? Donc, les médiations culturelles dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est que, bon, on a fait le constat de, vous n'êtes pas fou, c'est une réalité, ça vous a effracté, vous avez des lignes de faiblesse, vos symptômes sont défensifs, ils se sont amendés, pas tous, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et l'école, et qu'est-ce qu'on devient, etc. Ça, c'est relativement simple, toutes choses étant égales par ailleurs. Plus compliqué, les antécédents dans ces familles traumatiques de carence, c'est-à-dire d'absence, en particulier pour les familles monoparentales, sans culpabilisation, c'est-à-dire d'impossibilité d'être là au bon timing pour que l'enfant puisse manger, puisse dormir, toutes les fonctions instinctuelles là, dans ces moments-là, avec ce métier terriblement fou de mère, presque aussi fou que celui de psychiatre, c'est-à-dire un métier impossible d'être accordé au rythme de la douleur de l'autre, c'est-à-dire d'être dévoué, d'être dans le don, d'être dans une préoccupation maternelle permanente pour être accordé. Il vaut mieux être nombreux. Si la femme est seule, c'est plus compliqué. Nous, pour un adolescent, il y a 2, 3, 4 personnes. Une seule, ça ne suffit pas. Parce qu'on ne peut pas rester dans cet état de préoccupation permanente. Bref, cette mère est absente, ce père est absent. Quelque chose n'est pas transmis, le gosse est laissé seul, il braille, il n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à le calmer, il ne mange pas, enfin bon, il témoigne très tôt. C'est pour ça la maternité dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des signes massifs. Il a une excitation et les parents n'arrivent pas à calmer. Il y a une absence. Il n'a pas de contact. Il n'y a pas d'accordage affectif. On ne le touche pas, on ne le caresse pas, on ne le lave pas, on ne le valide pas, on ne lui parle pas. Bon. Quelque chose n'a pas eu lieu d'être. Eh bien, sur le corps de ce garçon, de cette fille, il y a, ça c'est de la médecine, ce n'est pas de la psychanalyse ou de la philosophie, il y a des engrammes de silence. Il y a des activations de circuits neuronaux qui ne se font pas. Bon, alors oui, les grands écrivains, Rimbaud, Virginia Woolf vous disent ça merveilleusement. Henri Michaud disait, quand ma mère, c'était du vide, c'était du rien, quand elle me touchait, je sentais sur ma peau des nappes de silence et d'hostilité. Voilà. Sentir des nappes de silence. Ne pas retrouver la trace de celui qui vous a formé dans le désir d'être. Vous cherchez une trace et vous trouvez une absence de trace. Bon, vous et moi, quand ça va mal, il vous arrive peut-être de vous asseoir et d'essayer de retrouver une expérience satisfaisante passée. Votre amour, un baiser, une étreinte, votre mère, enfin ce que vous voulez, un moment chaleureux, un printemps, bon. Si vous le retrouvez, vous pouvez vous soutenir de ça, le temps que ça dure, en attendant que l'objet revienne. Mais si, quand vous recherchez ça, vous trouvez du blanc, c'est-à-dire du silence, eh ben, vous ne vous soutenez pas, quoi. Et donc, vous devez encore surblanchir. Bon. Donc, ces traces d'expériences satisfaisantes passées, la Madeleine de Proust, les souvenirs d'enfance, le paradis perdu, enfin bon. Si vous les avez plus ou moins inconsciemment en tête, ça vous permet de tenir. Si les nappes de votre passé qui vous accompagnent dans le présent sont riches de tout un tas de choses merveilleuses, même si le présent n'est pas très bon, vous pouvez espérer dans l'avenir puisque le passé vous accompagne. Mais si ce passé-là, à chaque fois que vous le réactivez, est traumatique et blanc, c'est compliqué. Donc en psychothérapie, quand vous êtes avec ces patients, et que vous essayez de réactiver des traces pour pouvoir accorder le futur à ces traces du passé qui ont été suffisamment bonnes, ben vous n'en trouvez pas, quoi. Il y a des pièces manquantes. Dans certaines dimensions affectives, la gosse ignore d'ignorer ce que c'est que d'être affectée par... Elle ne sait pas ce que c'est que la proximité avec l'autre. Pour elle, c'est soit tout près, comme elle était avec sa mère, dans un attachement passionnel, soit lâchage. La bonne distance, la bonne proximité. Bon, elle l'ignore de l'ignorer. Eh bien ça, ce n'est pas la psychothérapie psychanalytique qui va réparer ça. Ce qui va réparer ça, c'est la médiation corporelle dont j'ai parlé tout à l'heure. On fait le travail à rebours de voir comment ce corps qui est déjà pavlovien et qui réagit de manière on-off, en excitation, en refroidissement, on essaie de lui retrouver dans des interactions avec une socio-esthéticienne, avec une masseuse, avec un psychomotricien, de manière très différenciée. On essaie de retrouver une rythmique qui soit moins explosif et qui soit plus prosodique, plus musical. Voilà. Je schématise, c'est du travail de longue haleine, mais c'est possible. Et puis, le constat est aussi que dans certains domaines, dans certaines zones, il y a des zones d'absence qu'on ne comblera pas. Donc je ne suis pas là en train de promettre la guérison, et celui qui vous la promet, à mon avis, est un menteur et un vendeur. Il va y avoir des zones qui ne vont pas pouvoir être rattrapées. S'il y a eu des antécédents traumas comme violence incestueuse dans l'enfance très précoce, c'est les 6 premiers mois. Hein. Celui qui vous dit que tout ça, c'est rattrapable. Bon, oui, il y a l'oubli, l'amnésie, il y a tout un tas de choses. Mais il y a quand même des... Bon. Et bien, cette douleur-là qui persiste, ou ces sentiments de blanc d'absence, là aussi, il me semble que c'est un formidable pourvoyeur de créativité. De toute façon, le sujet ne va pas avoir le choix. Dès qu'il rencontre des zones d'absence, et bien, il va être obligé d'inventer une présence, d'imaginer quelque chose. Voilà, la psychothérapie, vous refaites le puzzle de l'histoire antérieure. Il y a des moments... Vous révélez des paysages assez monstrueux. Là, vous traversez des tempêtes. Et puis, à un certain moment, vous arrivez à la fin du puzzle et il vous manque des pièces. Vous, le psychanalyste, vous arrivez avec une pièce, votre théorie, qui a une forme de X, là. Vous essayez de la mettre sur le trou, là, ça ne marche pas parce que ça a une forme de W ou de Y. C'est-à-dire que votre théorie à vous, qui est pour co-construire une histoire, ça ne marche pas. Il y a... Ben vous acceptez que cette pièce manquante reste et que le sujet va passer un certain temps de sa vie à inventer cette pièce, à la forger, au vu de l'expérience qu'il va avoir avec d'autres rencontres. Alors c'est la formule de Philippe, là encore, c'est on a étayé, on a contenu, on a évité les complications, le suicide, les complications des automutilations, des addictions, on a restauré la scolarité, on a plus ou moins rétabli l'ordre familial. Voilà tout ce qu'on a fait. Et là, le sujet sort et la vie peut rentrer dans un système qui n'est plus fermé comme il était avant. Parce que si vous laissez sortir une gosse à 25 kilos, elle ne va rencontrer personne. Il n'y aura pas de rencontre possible, ou alors des rencontres perverses. Si vous laissez un gosse totalement azimuté, clochardisé à l'extérieur, il ne va pas faire des rencontres qui vont le nourrir. Nous, on restaure des conditions pour qu'à l'extérieur, il ne soit pas stigmatisé comme et qu'il ne soit pas dénié et pas reconnu. Et puis après, ça le fait, ça le fait pas. Plus ou moins, bon, voilà. Sur ce, ça va être à vous maintenant. Voilà. Attends, j'ai plus de voix. Donc on va répondre à des questions.
Bonjour, j'ai une question. Vous parliez de thérapie familiale. Vous parliez de thérapie familiale, mais que faire quand un parent est réfractaire et réticent à la thérapie et que même il la dénigre aux yeux de son enfant, qu'il y a des conflits tels que le parent ne veut pas venir à la thérapie et que peut-être que justement ce parent est source du mal-être de son enfant.
Bien sûr, vous avez raison. Moi, j'ai donné des lignes générales. Et oui, on a du temps pour que vous me repreniez sur chacun des fils qu'il faut tirer pour en témoigner de la complexité. J'ai dit de manière générique que je souhaite que tous les patients dans le service, pour tous les patients suivis dans le service, les collègues sollicitent les entretiens familiaux, l'accompagnement familial, si ce n'est la thérapie familiale. Donc déjà, je suis proactif. Ensuite, bien sûr, la réalité, c'est que ça ne marche pas dans tous les coups et que même dans bon nombre de cas, les parents sont séparés, divorcés, haineux, ils n'en veulent pas. Ou alors, en effet, ils la dénigrent, c'est lui qui est fou, c'est pas nous. Bon. Je dis qu'on continue à faire le forcing, à insister, à dramatiser, à dire des choses, comme je l'ai dit. Écoutez, monsieur, madame, un des facteurs pronostiques majeurs de l'avenir de votre enfant que vous nous avez confié, c'est votre engagement à travailler avec nous sur ce qui a pu se passer. Donc, très... Bon. Et évidemment, ça ne suffit pas. Et évidemment, à un certain moment, il commence... En général, cette façon proactive fait que tout le monde y va. Il y a même derrière l'idée, écoutez, de deux choses l'une. Soit vous voulez vraiment être suivi ici. Vous avez un investissement. Ça fait un certain moment que vous galérez à avoir une place ici. Vous l'avez. Et là, vous me dites que vous ne travaillez pas. C'est limite, vous pouvez repartir. Par exemple, pour les anorexiques, il est inscrit. Vous rentrez, si votre fille est hospitalisée, vous garantissez que vous venez au groupe de parents le samedi ou le mardi soir. D'accord ? C'est inscrit comme ça. Il n'y a pas d'obligation formelle, mais symboliquement, il y a marqué, il y a un engagement quand on rentre ici à ce que la famille travaille. Pour autant, vous avez raison, dans un certain nombre de cas dramatiques, j'en ai eu un cette semaine où les parents sont malades, gravement malades, psychiatriquement malades, suivis, c'est pas... Bon. Et ce qui arrive, c'est que, d'abord, vous avez témoigné auprès du gosse que vous n'avez pas dénié cette possibilité, que vous avez même fait l'impossibilité pour... Et puis, à un certain moment, qu'il arrive que lui-même, avec vous, fasse le constat que ce n'est pas possible. Et que vous pouvez en parler après lui pour dire, vous voyez bien que, pour ce qui concerne vos parents, il y a une difficulté majeure à ce qu'ils puissent s'engager. Eh bien, nous allons faire sans. En tout cas, pour l'instant, et peut-être que... Mais au moins, a été montré qu'on n'est pas dupe du fait qu'il y a une part non négligeable qui appartient à la dynamique familiale. Le message est passé. Après, il n'est pas possible. Très bien. On peut ressolliciter, mais oui. Et puis alors, l'autre cas de figure, c'est que la majeure partie, ils rentrent, et puis très rapidement, ils sabotent et ils arrêtent. On relance. Bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que le gosse a bien compris que c'est pas lui qui est fou et que tout le monde est normal. Et qu'il n'y a pas de rapport entre le contenu, etc. Voilà. Mais vous avez raison, c'est évidemment à chaque fois singulier et plus difficile, plus compliqué, bien sûr. Alors, n'oubliez pas aussi que pour tout un tas de raisons, les patients ne veulent pas venir en thérapie familiale, pour des raisons avérées, parce qu'il y a des secrets, des machins, des règlements de compte, très bien. Mais dans la majorité des cas, bon, c'est un point fondamental, mais... Je ne parle pas des adolescents borderline, je parle des adolescents normaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué que, grosso modo, lorsque l'adolescent devient ado, il monte en puissance, il va commencer enfin sa vie, et ben, nous, les parents, nous descendons plus ou moins, quoi. Enfin, nous montons en âge et nous descendons en force. Bon, très bien. Et que ça correspond, grosso modo, à l'adolescence de la famille. La famille aussi a une temporalité. C'est notre adolescence à nous. L'adolescence de notre ado réactive notre adolescence. Si celle-ci s'est bien passée, ça se passe plutôt bien. Si ça s'est mal passé, il y a des conflits majeurs de jalousie, de rivalité qui font exploser le système. Et en plus, cet ado, je n'ai pas dit que c'était volontaire, conscient, je dis que c'est la loi de l'évolution, cet ado, il a un truc fondamental, c'est je veux être autonome, indépendant, je ne veux plus dépendre de vous et je vous le montre. Dès que vous me dites faites ça, faites ça, faites ça, je fais l'inverse pour voir à quel point je peux survivre si jamais vous mourrez et que vous ne me demandez plus de faire ça. D'accord ? C'est de ça qu'il s'agit de manière inconsciente. Bref, d'une certaine manière, il dit je vous redonne toute la libido, tout l'amour que vous aviez pour moi. Moi, je vais le mettre ailleurs. Et je vois ce que vous faites avec la libido que je vous donne. C'est-à-dire si vous allez rester ensemble ou pas. D'accord ? Et comment vous allez partir en amoureux pour un séjour, je ne sais pas où, plutôt que d'organiser les vacances avec toute la famille, vu que nous, on ne veut pas partir, ça y est, on va avec les copains. Vous voyez ? Ça, c'est déjà difficile dans les familles normales. Si jamais vous allez dans les familles plus compliquées, ce qui arrive, c'est un risque majeur, c'est une évolution majeure de la thérapie familiale, c'est que de travailler tous ces conflits, cette libido qui revient, la part incestueuse qui a été mise qui revient dans la famille, la mère qui a masqué l'inceste oedipien du père, séparation, divorce, d'accord ? C'est ça la menace. Et c'est pour ça que le couple ne veut pas forcément y aller. Et oui, dans un certain nombre de cas, c'est ce à quoi ça aboutit. De la même manière que, là il faut arrêter l'enregistrement, mais si vous envoyez quelqu'un pour une thérapie de couple, est-ce que vous avez déjà vu un résultat qui est que le couple se reforme ? Jamais. Quand vous envoyez deux personnes pour une thérapie de couple, c'est en général pour organiser la séparation. Ce fantasme que ce travail va réorganiser l'équilibre, vous êtes en train d'enlever le symptôme du gosse qui participait à l'organisation de la famille. Ça va redéséquilibrer tout et ça va tout désorganiser. Et donc, c'est assez naturel qu'ils n'en veuillent pas. Donc, je m'explique sur thérapie familiale, multifamiliale. Il faut que le gosse perçoive que nous avons perçu, tout ça sans vraiment le dire, mais en le faisant, qu'il y a une part qui appartient à la dynamique familiale dans laquelle il est, que nous allons la travailler au maximum, mais qu'il va falloir nous résoudre et lui aussi se résoudre, que si jamais ce n'est pas possible, eh ben il va falloir qu'il fasse sans. Et c'est un peu vrai pour tout le monde. À un certain moment, on s'aperçoit que l'autre du couple, ou l'autre de la famille, ou l'autre des parents, il a des points aveugles, il n'avance pas, eh ben on ne va pas passer sa vie à essayer de... Non, c'est totalement contre-productif. Voilà. Mais au moins, on n'aura pas fait semblant de dénier. Et ça, ça suffit pour infléchir, infléchir une orientation. Oui.
Oui, bonjour. J'ai une petite question sur la définition du mot borderline que l'on entend assez souvent. Est-ce qu'on est sur une structure psychique ou sur un état émotionnel ou sur un mélange des deux ? Merci.
Ce n'est pas une petite question, comme vous y allez. Alors, j'ai oublié de dire que l'appellation borderline est l'application américaine. Et comme les Américains ont gagné avec le DSM, qui infiltre l'ensemble de la psychiatrie mondiale, pour un certain temps, ça ne va pas tarder à changer. Donc c'est eux qui décident des catégories. Et toutes les recherches en France sont faites en fonction de ces catégories. D'accord. Donc ce qu'ils appellent borderline, c'est simple, c'est 9 items où il y a impulsivité, trouble émotionnalité, conduite addictive, tentative de suicide, tatatatata. Bref. Vous arrivez devant... Alors, aux États-Unis, ce n'est pas comme ça maintenant. Aux États-Unis, vous n'arrivez pas devant le psychiatre. La première rencontre avec le psychiatre, c'est la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, vous avez un questionnaire. Et donc, vous remplissez le DSM. Et ensuite, le questionnaire arrive chez le psy et ensuite, il vous reçoit. Mais ici, en France, ce n'est pas très loin d'être la même chose. Les psys arrivent avec leur cartographie en tête. Et en gros, si vous rentrez dans les 9 items, vous êtes borderline. Ce qui est assez facile. Ce qui est tout aussi facile que d'en sortir. Si le lendemain, vous arrêtez un certain nombre de conduites, vous n'êtes plus dedans. Donc, borderline, c'est ça, c'est est-ce que vous êtes dans la catégorie ou pas. D'accord ? Est-ce que cette catégorisation définit une structure ? Non. Enfin, de mon point de vue, du point de vue d'un certain nombre de psy. Elle catégorise un ensemble comportemental qui vous stigmatise, de mon point de vue. Donc moi, j'appelle ça, avec d'autres, des fonctionnements limites, des états limites, des cas limites. C'est-à-dire que je dis que, ce qui est forcément moins entendable, qu'ici, il y a un certain nombre de névrosés, comme moi, en tout cas moi, et que nous pouvons avoir, par moments, dans certaines dimensions, un fonctionnement limite. C'est-à-dire que ce n'est pas une structure, mais une structuration. Et qu'en tout cas, à l'adolescence, vous savez ce qu'est l'adolescent, cette agitation, cette exaltation, cet abattement, cette morosité, tout ça, ça ne le définit pas, ça définit simplement un tourment, un tourbillon qui n'est pas encore stabilisé et que moi je ne veux pas qu'on dise qu'il a quelque chose de définitif figé dans une case. Mais pour autant, la réalité, c'est ce qui se passe en matière de catégorisation. Voilà. Alors le DSM, c'est le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux que la nosographie américaine a édicté depuis un certain temps et qui est une bible, puisqu'il l'appelle comme ça, comme tout est bible aux États-Unis. Donc voilà, c'est une bible où vous avez 365 ou plus. On était parti de 25, 280. Là, donc le nombre de troubles mentaux a augmenté. On est à 394. Et vous avez un certain nombre d'items purement comportementaux qui détermineraient un diagnostic structurel. Et qui devait être utilisé que pour la recherche, qui avait un intérêt pour comparer des choses comparables, mais qui est devenu maintenant la référence clinique. Il n'y a plus l'enseignement de ce que j'ai essayé de faire, de la dynamique, du mouvement, des fluctuations. On est plutôt dans qu'est-ce que vous présentez, pas qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous présentez. Et si vous rentrez dans les cases, ben voilà. Nos amis américains sont en train de revenir en arrière et sur beaucoup de choses. Ils avancent très vite, mais dès qu'ils s'aperçoivent que le modèle ne fonctionne pas, ils reviennent en arrière. Et là, oui, le NIMH, c'est-à-dire l'équivalent de l'INSERM aux États-Unis, dit que cet outil est absolument inconséquent et que, selon Thomas Sintel, qui est le directeur de l'INSERM américain, sa phrase est « les malades méritent mieux que ça ». Donc ils viennent de comprendre que c'était stigmatisant, c'était catégorisant. Mais bon, il faudra un certain temps avant qu'ils trouvent une autre catégorisation. Mais la psychanalyse aussi est catégorielle. La psychanalyse, elle vous dit vous êtes psychotique, névrotique, ou dépressif, ou état limite, ou narcissique. Bon, on a besoin aussi d'avoir des repères qui peuvent être des cases. Et je vous ai dit tout à l'heure dans la critique à David Le Breton, je vous ai dit que oui, à un certain moment, le symptôme s'auto-renforce, s'auto-engendre, et oui, je suis assez d'accord pour dire qu'à un certain moment, vous êtes encagé. La maladie vous a encagé. Mais je ne crois pas que ce soit définitif, en tout cas à l'adolescence. Je crois qu'il y a toujours une possibilité de mouvement. En tout cas, c'est ça qui nous fait bouger, nous.
Madame. Vous disiez tout à l'heure, du coup, que je vais essayer de formuler ma question, mais ce n'est pas facile. Que les adolescents borderline, pour traiter le problème de fond, il faut en général qu'il y ait la famille et que ce soit traité de manière globale. Je suis éducatrice à l'aide sociale à l'enfance. La plupart des adolescents borderline nous arrivent dans un état de crise où très souvent il y a un rejet de la famille puisque du coup c'est le moment où ils n'arrivent plus du tout à gérer le jeune qui se met en grand danger et qui met la famille en danger. Après avoir vécu une situation de fusion, la plupart du temps étant enfant, de rejet fusion, etc., se retrouvent mis à l'écart de la famille où on nous demande à nous professionnels de le transformer pour leur rendre comme il faut, gentil, courtois, voilà. Et du coup, la plupart du temps, on est en très grande difficulté pour travailler avec les familles qui, elles, n'ont pas envie de travailler avec l'enfant, c'est-à-dire eux, ils veulent juste que nous, on travaille avec l'enfant, les psychiatres, faites tout ce qu'il faut pour lui et après vous nous le rendez quand il sera soigné. Et du coup, on se trouve en difficulté par rapport à ce que vous dites et j'aimerais bien savoir quelles sont les autres options que de travailler avec la famille, parce que la plupart du temps, on essaye de faire entendre à l'enfant que... il va falloir qu'il grandisse avec la famille qu'il a, avec les difficultés qu'il peut y avoir dans la famille, et plutôt de travailler sur lui, finalement. Et on met de côté la famille qui est dans le rejet, qui ne veut pas venir au rendez-vous, qui ne se rend pas aux consultations, etc. Alors, vous dites, vous fourrez le doigt dans l'œil si vous croyez que vous allez travailler sans la famille, mais en l'occurrence, quand on n'a pas la famille, comment on peut faire ?
Eh oui, vous avez raison, bien sûr. Mais bon, vous décrivez la situation de l'ASE, entre autres. Non, mais vraiment, et moi j'ai décrit la chance que j'ai d'avoir pour l'instant les moyens de mettre le paquet pour essayer de... Et il n'y a pas photo, à l'ASE aussi, les situations sont infiniment encore plus dramatiques, traumatiques que celles que j'ai décrites. Donc vous avez les patients les plus difficiles, les configurations familiales les plus difficiles. Et je soutiens, je souscris à votre question par rapport à ce que j'ai pu avancer. Pour autant, moi, je vous l'ai dit, j'ai une structure étape qui a les patients que vous avez avec les structures familiales et qui travaille avec la PJJ, etc. Donc, ce que j'ai dit, et merci pour me permettre de nuancer, vous devez avoir en tête quels que soient les moyens que vous avez. Et si vous avez les moyens, c'est mieux que si vous ne les avez pas. Mais vous devez avoir en tête, vous gardez ça comme philosophie, comme idéologie, comme croyance, comme foi, comme illusion mobilisatrice, que ce gosse est né de cette famille-là, dans ce milieu-là, de ces géniteurs-là, qui sont ce qu'ils sont, y compris pas simplement les familles en détresse, en désarroi, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas suffi, aussi ceux qui ont maltraité, même ceux-là, y compris les zones perverses, tout ce que vous voulez. Bon. Vous gardez ça en tête. C'est une question de psychopathologie, c'est-à-dire vous ne pouvez pas trop dramatiquement, trop littéralement, vous, l'intercesseur de la société, dire je coupe les racines. Les racines sont pourries, elles s'effectuent, même si elles le sont. D'accord ? Je coupe les racines. Avant de couper les racines, comme mon ami Maurice Berger l'a préconisé pendant des années sans être entendu, c'est-à-dire qu'il a préconisé que dans les familles traumatisantes, psychotisantes, malveillantes, il a dit il faut séparer. Et tout le monde a dit la barbarie, des psychanalystes, ils séparent leurs enfants, quel salopard. Bon. Ce qu'il a dit, c'est très simple, c'est que le milieu dans lequel ce gosse se développait, quelles que soient les raisons, était toxique, pas de manière manichéenne intentionnelle, c'est que la maltraitance continuait. Et que vous, avec le rendez-vous une fois par semaine à penser le truc pendant que la maltraitance continue, c'est une aberration de penser. Marion Robin, dont je vous parlais tout à l'heure, que vous allez inviter l'année prochaine. Marion Robin, elle souffre considérablement de tous ces abus sexuels révélés dans le service. Elle est militante, elle est jeune, je répète, c'est le féminin, c'est tout ça, c'est pour ça que c'est important. Donc avec ses collègues, elle est militante, elle ne lâche pas le morceau, bon. Mais elle vient de sortir les chiffres qu'elle a montrés au ministère, c'est que dans 50% des cas, il n'y avait pas eu de plainte. Quand il y avait une plainte, dans 50% des cas, la patiente qui avait porté plainte restait dans le milieu toxique pendant un an avant que la plainte n'arrive. Et dans 50% des cas, elle arrivait à un non-lieu. Donc, vous voyez le problème majeur. Donc, vous coupez les racines lorsque vous êtes sûr que le gosse a des jambes pour pouvoir partir. Vous voyez l'idée. Mais oui, moi en tout cas, c'est ce que j'ai dit dans mon service, de manière extrêmement radicale, dès qu'il y a maltraitance perverse, intentionnelle, il y a information au juge, plainte et séparation. Nous sommes un service qui séparons. D'accord. Donc, ce que je dis, c'est une asymptote qui est d'essayer de maintenir un continuum avec les racines, quelles qu'elles soient, pour que le sujet reste en continuité avec son identité. Parce que s'il part en exil en coupant ses racines, il risque d'emmener en exil toute la traumatologie qu'il n'a pas travaillée. D'accord ? Ça ne sert à rien de voyager si c'est pour retrouver la même chose que ce qu'on a quitté. Je veux bien qu'ils voyagent, je suis, moi, mes patients, maintenant, un certain nombre, parce que votre question est fondamentale, je l'ai dit trop rapidement à la fin, la question, c'est bien d'arriver à une séparation, individuation, autonomisation, subjectivation, c'est-à-dire qui se sépare. Et mon expérience avec mes patients, c'est que maintenant, ils m'écrivent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, enfin, quand je dis qu'ils se séparent, ils sont loin. Hein. Et ils vont très loin pour faire des bébés très loin, ils ne supportent pas l'idée de les faire en présence de la famille comme s'il y avait un risque de contamination. D'accord ? Donc, on discute comme ça. Mais pour qu'ils aient pu aller aussi loin, il fallait qu'ils aient visité ce qu'ils avaient quitté. Et oui, il y a un moment compliqué où on fait des efforts, où ils ne viennent pas, où on leur montre qu'on a fait l'effort, et on n'y arrive pas. Et puis, à un certain moment, assez naturellement, on coupe. Mais une fois que tout ce travail de démonstration que, oui, on n'a pas coupé sans faire l'effort d'eux, et même sans... C'est compliqué sans avoir mis en tête dans l'esprit de l'enfant qu'il faut qu'il reste préoccupé par sa famille. Je veux bien qu'il aille en Nouvelle-Zélande, etc., mais qu'il continue à rester préoccupé par son enfance. Moi, je suis contre le blanchiment. D'accord ? La seule chose qui soit éternelle en nous, c'est l'enfance. La seule chose qui nous permet de continuer à vivre lorsque ça va mal, c'est la relation que nous avons eue avec notre enfance, ou plutôt la façon dont on se raconte l'enfance, la fiction que nous avons de notre enfance. Et même si elle est misérable, même si c'est les misérables, même si c'est Hector Malot, c'est mieux que rien. D'accord ? Donc, ma réponse, elle n'est pas parfaite, elle est ce qu'elle peut, mais vous avez raison, et j'entends tout à fait votre remarque. Quel travail terrible, pénible, difficile, on se fait assassiner, y compris médiatiquement, etc. Bon. Oui, on va vers la séparation, mais on essaye d'abord de dénouer l'étranglement des liens, voir si ce dénouement permet à ces liens de rester relativement flaccides. Si ce n'est pas le cas, à un certain moment, ça va se couper, oui. Ouais, mais la ZEU, c'est... Ou alors, en effet, on a... Bien sûr. Mais ça, c'est relativement plus simple. Je veux dire, dans l'esprit, hein. Si, parce que c'est radical. C'est radical. Plutôt que la mère borderline qui vient, qui vous le dépose, et qui ensuite revient vous engueuler, et qui le reprend, et qui le relâche. Le gosse, il ne comprend pas, là. Alors quoi ? Oui ? Non ? Le monde devient absurde. Là, on est chez Camus. On est dans l'absurde. On est chez Kafka, même. Celui qui dit, bon, paf, c'est dramatique, c'est cruel, c'est tranchant, c'est désorganisant, c'est un risque suicidaire. D'accord ? Mais c'est tranchant, quoi. Les chirurgiens aiment bien les plaies tranchantes. Si la plaie est enfractueuse, pour faire de la dentelle, à chaque fois que vous prenez une berge, ça ne va pas avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un métier terriblement difficile, éprouvant. Et oui, le travail avec la famille, c'est une asymptote. Une asymptote, une illusion mobilisatrice. Et vous savez aussi, l'autre chose, c'est... Attention, parce que quand vous avez... Et je sais qu'on tombe dans le panneau tous les jours, nous. Moi, je me bats avec mes collègues en leur disant... Vous êtes tombé dans le panneau, c'est-à-dire que vous avez coupé avec la famille, et maintenant, la famille, c'est l'IMM. C'est l'IMM, c'est le service. Ça fait un an et demi qu'il est là, le gosse. Oui, vous n'avez pas de structure, les parents sont à la rue, l'ASE ne veut pas, les PJJ, ben, d'accord. Mais ça fait un an et demi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour rester dans le service ? Eh bien, avoir des symptômes. D'accord ? Pour justifier, bon... Et moi-même, je vous ai dit tout à l'heure en me moquant qu'on avait des adolescents de 45-50 ans, c'est ça. Et moi, une patiente qui tous les samedis, dimanches, vient et s'assoit en face du service. Donc ce risque-là, s'il n'y a pas d'effraction, s'il n'y a pas une nouvelle famille qui arrive, si les amis ne participent pas, parce que les gosses sont inventifs, maintenant ils ont des groupes ensemble, des groupes Facebook, Instagram, bon... Ils font des tribus, comme ils disent, d'accord ? Si ces autres modalités de famille n'existent pas, vous risquez d'être scotché à vous, et ce n'est pas une bonne chose. Parce que la seule façon de rester avec vous, et de justifier votre traitement, c'est-à-dire vos salaires, c'est d'avoir des symptômes. Voilà.
D'autres questions ?
Alors, il n'y a que les femmes qui posent des questions, alors. Messieurs,
c'est peut-être toi qui as dû ça.
Non, je crois pas. Je crois pas. La spécialité se féminise.
Le problème avec ces jeunes en grande difficulté, c'est qu'ils nous présentent des facettes différentes.
On t'entend pas.
Et là, oui. Moi, j'avais une question, c'est comment on fait avec ces jeunes quand, en effet, on est en équipe et que apparemment ils vont être différents avec chacun d'entre nous. Et qu'après, dans les équipes, c'est un peu problématique. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Alors oui, c'est une observation clinique évidemment extrêmement importante, en particulier chez ce type de patients, qui témoigne d'abord d'une chose par rapport à ce qu'on disait sur la catégorisation diagnostique DSM, c'est que ce gosse-là, avec toi, avec moi, avec l'assistante sociale, avec le personnel de service qui lui amène le repas, qui refait le lit, c'est pas la même. C'est-à-dire que les catégories diagnostiques dépendent de l'investigateur. On pouvait s'y attendre. D'accord ? Et que si vous mettez un ordinateur qui fait que les comportements, forcément, ce n'est pas la même chose si vous avez une rencontre. Ça témoigne, et c'est ça qui fait la beauté de ce métier, c'est que c'est mouvant, que c'est fluent, que ça dépend du miroir de l'autre, c'est-à-dire de la façon que tu as de le regarder, d'être une femme plutôt qu'un homme, d'être comme ça, comme les femmes peuvent l'être dans l'accueil, la générosité, la vague, le mouvement, tandis que l'homme est carré, enfin bon. Et puis le statut, par exemple, moi, chef de service, j'ai une chance considérable, pour tout un tas de raisons, la rencontre est facilitée. Et aussi avec l'âge, plus vous entrez en âge et plus c'est facile de rencontrer des borderline. Quand vous êtes trop près d'eux, en point de vue d'âge, c'est plus difficile. Le transfert n'est pas le même. Bon, c'est simple, vos enfants vous emmerdent, ils cassent tout, ils obéissent pas, ils réussissent pas à l'école. Vous les mettez chez les voisins, la copine, et vous allez les retrouver. Les voisins disent ils ont été formidables, sages comme c'est pas permis. Et bon. Vous les mettez chez les grands-parents, vraiment, ils sont très bien élevés, tes enfants. Bon, voilà. Ben, c'est parce que l'excitation n'est pas la même avec vous qu'avec le voisin. Voilà. Donc ça, ces facettes, ben, ça veut dire que l'identité du sujet est composite, qu'elle est de multiples facettes. Et alors, comment faire avec pour éviter le clivage? Parce qu'ils jouent leur jeu, le gosse. Ils sont généreux avec toi. Et moi, je suis le mauvais objet. C'est moi qui l'empêche d'eux, qui donne les médicaments. Toi, tu l'écoutes. Enfin bon. Eh bien, ça s'appelle le travail de synthèse. On se réunit. Et voilà ce qui me présente moi. Voilà ce qui me présente moi. Voilà ce qui me présente moi. Et il y a ce truc magique que j'essaye de vendre à l'ARS, mais qui ne l'accepte pas. L'ARS, ce qu'elle veut, c'est combien vous avez vu de patients. Quand je lui dis que j'ai 3 heures de synthèse, elle dit oui, mais ça fait 3 heures sans patient. Ces 3 heures de synthèse, c'est on se réunit pour parler du patient. Et là, voilà la facette, voilà la facette. Donc, tu modules mon inflexion, mon a priori, ma vérité sur ce patient, tu es en train de la modifier. Je modifie la tienne par inflexion. Il y a un climat de confiance, on a travaillé ensemble, on sait que... C'est pas toi qui as la vérité, c'est pas moi qui ai la vérité, que c'est, elle est mouvante, elle est fluente. On se fait une image, une représentation, et il arrive cette chose magique tous les jours qu'en sortant de la synthèse, la gosse va mieux. C'est-à-dire que quand elle te retrouve toi, elle te retrouve avec ce que j'ai induit, et moi aussi. Et enfin, elle perçoit qu'on la rencontre dans son entière configuration, dans son entièreté. Et là, ça l'apaise tout de suite. Voilà. Ça, c'est quelque chose de classique, de magique, et d'éminemment important. Et c'est la même chose. Quand je vous disais le chiffre 2, le chiffre 3, si vous êtes 2, vous ne pouvez pas avoir ça. Si vous êtes 3, évidemment que cette gosse peut diffracter, différencier entre papa et maman, et que les deux, qu'est-ce qu'ils font les deux amoureux le soir quand ils se couchent ? À part de vouloir faire un autre enfant, ils commencent par discuter pour savoir comment va la gosse. Est-ce qu'elle a bien dormi? Est-ce qu'elle a bien travaillé? Ils échangent leur point de vue, mais avec toi, elle était comme ça. Voilà. Et le lendemain, la gosse va mieux parce que l'idée de papa et maman n'est plus aussi clivée. Elle est construite. Et quand les autres enfants arrivent, c'est fondamental. On n'en a pas assez parlé, mais une des façons de se dégager de la folie des parents, c'est évidemment les frères et sœurs. Si la communauté des frères et sœurs se réunit pour parler ensemble et se faire une représentation de la détresse, de la folie parentale, ce soutien horizontal permet d'étayer la fragilité verticale. D'accord ? Donc voilà, c'est ça qui se passe et c'est évidemment... Alors, ça veut dire que le mot d'ordre, quelle que soit votre fonction dans le soin avec ces adolescents, je répète... Il faut que dans vos institutions, quelles que soient les difficultés, vous puissiez témoigner d'une possibilité de synthèse, de supervision, d'échange, d'être plusieurs. Sinon, ça risque d'être plus compliqué. Sinon, vous risquez de vous faire avaler et ensuite de générer des symptômes pour vous remettre à distance. Dans le service, par exemple, parce que déjà, c'est compliqué... pour ceux qui sont dans l'échange avec le patient au niveau psychothérapeutique, mais plus compliqué encore, ce sur quoi j'ai incité, les médiatrices corporelles, celles qui font des massages, de la relaxation, etc. C'est elles qui ont la vérité de ce qu'est l'ado. Moi, je vous donne des mots qui tente de figurer métaphoriquement. Bon. Mais elle, moi, je, dans le service, ma, une de mes fonctions, c'est d'être le superviseur des médiatrices corporelles. Donc, elles viennent et elles me disent, il y en a marre, on n'en peut plus. De masser une anorexique à 25 kilos, de sentir les os, la mort, il faut donner une prime supplémentaire, c'est pas possible. Le froid, le silence, voilà. Voilà la réalité, l'autre facette corporelle, affective, viscérale, primitive, c'est celle-là qui est importante, encore plus que l'image qu'on s'en donne. Bon. Et donc mon travail, celui d'autres, c'est d'apaiser, mais surtout de prendre en compte ce qu'on appelle une interphysiologie. Quand un gosse te donne une image de lui-même, une facette, il te la donne dans ce qu'il dit, dans ce qu'il montre, mais aussi il te la donne dans une interphysiologie. C'est-à-dire qu'avec lui, tu es irrité, tu es énervé, ou au contraire, tu es excité, admiratif. Voilà. Il y a quelque chose qui passe. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la télépathie. C'est la même chose que quand vous prenez un bébé, vous l'amenez devant une femme enceinte, sa mère, vous l'approchez et que le lait se sécrète du sein. Vous comprenez ? Voilà. C'est parce que c'est lui, parce que c'est moi. Il y a quelque chose qui passe. Et ça, les médiatrices corporelles, elles vous disent. Elles vous disent, elle est rugueuse ce matin. Elle est flasque ce matin. Elle est molle, ça ne va pas. Ou elle est tendue, elle va se casser. C'est beaucoup plus important que l'idée que vous faites. Parce qu'elle, elle sent cette tension. Voilà. Et donc, si vous prenez en compte ça, quand vous la recevez en psychothérapie, vous y allez mollo. Parce que sinon, ça casse. Voilà. Le corps.
Madame, tout là-haut.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est dès que mon souris parle, c'est toujours très agréable d'entendre votre expérience. Je travaille donc dans la protection de l'enfance avec des très grands de 15 à 21 ans. Alors, je ne vais pas vous parler forcément du jeune homme pour toute sa situation. Par contre, je travaille avec un jeune homme avec qui on est en grande difficulté, avec des symptômes très, très exprimés. Et qui est dans une fuite permanente. Et quand je vous dis fuite, c'est qu'il demande à partir, il part, il disparaît, et voilà. Et on multiplie les contacts, le réseau, la pédopsychiatrie, l'équipe mobile, l'école. On est nombreux, voilà. Dieu sait qu'on est nombreux autour de lui. Et il fuit, et je, voilà, quand je vous entends, je me dis qu'est-ce qu'il aurait besoin des médiatrices corporelles. Il va mal. Il est moche, il est sale parce qu'il ne va pas bien et nous on n'arrive pas à le border et on ne veut pas le lâcher alors que lui nous hurle qu'il faut qu'on le laisse partir. On refuse de le laisser partir et en même temps j'ai l'impression que la condition à ce que quelque chose se mette en place ce serait l'ailleurs, mais l'ailleurs que lui y rêve, moi j'y crois pas. Moi je crois qu'ailleurs il ne se passera rien de plus que chez nous donc je ne lâche pas. Et en même temps, je vois bien que rien ne se passe. C'est juste pour vous dire un peu notre difficulté face à ce type de situation où finalement, malgré des mises en route multiples, il y a un truc qui ne prend pas. Voilà, c'est des choses que vous devez voir, que vous devez connaître.
Alors, vous êtes soumis à une difficulté évidemment très importante à laquelle il faut faire face. Et, alors, évidemment, ma réponse par rapport à aux éléments que vous me donnez n'est qu'une réponse extérieure et qui est une réponse plus à la façon émotionnelle dont vous parlez de ce garçon plus que des faits. Il me semble qu'il y a un certain niveau d'inquiétude, il est évidemment légitime. Il est évident que la fugue est un signe avant-coureur de risque suicidaire, c'est incontestable. Il est évident que les fugues multiples témoignent d'un besoin de se désengager d'une aspiration à être fixé. Bref, ma réponse, elle est simple. On le prend et on l'hospitalise sous contrainte pour une durée longue. D'accord ? C'est-à-dire qu'on explore, mais je n'ai pas dit que c'était simple. Trouver une hospitalisation longue, maintenant, c'est compliqué, bien sûr. Les gens n'ont plus le temps. Les hospitalisations longues, l'hospitalisation longue, c'est quoi ? C'est qu'on contraint le sujet. On empêche sa stratégie de défense qui est la fuite. On le pose et donc il va se déprimer et il va régresser. L'hospitalisation longue, c'est d'accepter le fait qu'on induit cette régression pour aller chercher les racines de cette fuite dans ce qu'il va pouvoir nous dire au moment de la régression. Sinon, on va passer son temps à courir après. Voilà. Alors après, il faut trouver les conditions sectorielles qui permettent ça. mais sa défense témoigne d'une peur intérieure qui, si on ne l'explore pas dans la régression qu'on va organiser, fait que ce gosse va continuer à fuir partout en emmenant sa peur avec lui. Bon. Donc là, je suis ferme sur les prix. Oui. Alors, accessoirement, on peut aller, alors, pour continuer à essayer d'aider, bon, la situation environnante n'est peut-être pas facile, l'appel à un juge, une information préoccupante, une demande sectorielle d'hospitalisation, une OPP, une hospitalisation sous contrainte, allons-y. Mais allons-y. Ne restons pas impuissants. Alors, là aussi, c'est la, Philippe Jamais, la réponse doit avoir la même densité pulsionnelle que le symptôme. Et en général, elle doit subvertir le symptôme. Le gosse fuit, il n'arrête pas de le faire, on va l'enfermer de manière très ferme. D'accord ? Vous voyez le... Et on va voir. Et il ne faut pas s'inquiéter de ça. Simplement, on a le sentiment que cette fuite-là, cette défense, n'est pas une solution, ni même une réponse. Elle n'est qu'un, voilà, qu'un dispersement.
Monsieur.
Bonjour, je suis donc éducateur en EPM, donc à Porcheville, c'est une détention pour mineurs. Je me pose la question d'une représentation politique des choses. Pourquoi ? Parce que j'ai une culture d'éducateur de rue. Et donc, du coup, j'arrive dans un système, moi, là où on enferme, là où il n'y a plus de place en hôpital psychiatrique ou dans des secteurs avec qui je travaillais avant à la protection de l'enfance, on les retrouve en prison. Et c'est le seul moment où ils ont des temps longs, parfois longs, d'enfermement, ou parfois trop courts. C'est-à-dire que c'est là où il faudrait plus de psychiatres. Enfin, il y a une espèce de confusion des choses. C'est-à-dire que maintenant, comme il n'y a plus de place, on les met là. Quand ils sont là, ils ont 4 mois de mandat de dépôt en général ou 6. C'est-à-dire qu'ils vont être amenés à sortir, commencent un travail et partent avec des ruptures grandes. Bon. Pour exemple, le dernier que moi, on a réussi à sortir, l'une de mes références qui est dans des passages à l'acte multiples très graves, dont un qui a causé un paraplégique dans un accident. Il sort et on explique bien que le souci est l'hospitalisation. Délai d'attente pour la structure trouvée, 2 ans. Et là, on se dit, il sort et on a une logique qui pour un éduc de rue comme moi anciennement, c'est juste impossible de le penser, mais on le pense quand même, c'est pourquoi il sort ? Parce que concrètement, il sort alors qu'on sait très bien qu'en sortant, ça va merder. Bon, pour la petite histoire, il faut savoir que ça a merdé, effectivement. Il est sorti mercredi dernier, il est reparti dans des actes de fugue et de mise en danger le samedi. Et on sent bien que le travail de lien qui est préconisé par tout le monde, par la loi de 2016, par Boris Berger, par tous les gens importants, est là. Mais sur le plan du travail pratique de terrain, malgré les magistrats, malgré les pédopsychiatres, ça ne se fait pas. Donc la dimension politique, en fait, on a l'impression qu'à un moment donné, on a des solutions théoriques, mais pratiquement, on n'arrive pas à les faire. Quoi. Et c'est assez frustrant. Plus on vient au DU, en plus, plus c'est le cas.
Oui, mais bon. Alors, évidemment que je partage pleinement votre... Même pas votre point de vue, une évidence que tout le monde partage. Mais alors, d'abord, la situation française de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, y compris jusqu'aux prisons, est probablement la meilleure d'Europe, de très loin. De très loin. Y compris par rapport à l'Angleterre, dont on vante les mérites, mais évidemment avec les pays scandinaves à part, pour tout un tas de raisons. Bon. Et la situation est catastrophique, évidemment. Et les délais d'attente, et le lien, et la théorie. Mais que la théorie ne puisse pas être appliquée en pratique, ça n'empêche pas de travailler. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Mais vous avez raison, c'est déceptif, c'est frustrant. Bon. Votre remarque, elle dit plusieurs choses. La première, vous avez noté, et ça c'est important par rapport à ce qu'on a dit, c'est que, comme disait un de mes patients, à Fresnes, on ralentit. Il aimait beaucoup Alain Bachung, et donc la chanson « C'est comment qu'on freine ?» Le borderline, c'est comment qu'on freine, vu l'excitation. Bon. Donc à Fresnes, on ralentit, à la maison d'arrêt, on s'arrête, et à la santé, on retrouve la santé. D'accord. Pour avoir visité la santé, discuté, il y a un autre fait effarant, donc ça, il faut le dire à notre ami David. Au bout du bout du bout du bout de la chaîne, quand ils ont fait des actes délinquants, ces grands borderline toxicomanes, multi-addicts, cocaïne, crack, etc., qu'on n'a pas sevré, y compris qu'on n'a pas réussi à sevrer, nous, etc., on les met à la santé. Eh bien, ils retrouvent la santé. Et je peux vous dire que le service de psychiatrie de la santé, ce n'est pas le sevrage doux. Hein. C'est on arrête tout et basta, et tu te démerdes. C'est-à-dire que la contrainte extrême, avec des limites éthiques, je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça, je dis que c'est un constat. La contrainte extrême permet d'arrêter le processus. Alors, ils trouvent tout un tas de moyens calmants très compliqués, dont l'exercice physique, la musculation, le porno, Canal+, la profusion, enfin, tout un tas de choses qui permettent de calmer, etc. Mais le constat, c'est qu'ils merdent en sortant pour pouvoir revenir, comme ils le font dans le service. Et alors après, moi, je suis totalement impuissant à donner une réponse qui puisse être favorable au fait que, oui, vous avez raison, la question du lien ne se fait pas, faute de moyens, faute d'argent, et qu'on ne va pas dépenser un pognon de dingue pour la psychiatrie alors que ce n'est pas la priorité. Il semble que ce soit ça le problème. Il y a tellement de priorités, je caricature, je ne suis pas sûr que les fous, entre guillemets, soient une priorité. Quand en plus vous avez une secrétaire d'État là, dernièrement qui a dit qu'il ne fallait pas que les psychiatres s'occupent d'un certain nombre de choses, on va voir. Mais oui, il faut donner des moyens à la psychiatrie. Il y a un délégué interministériel qui vient d'être nommé, Franck Bélivier. On va voir le travail qu'il va faire et il va dire la même chose que nous. Du lien, de la continuité, des effectifs. Bon. Et puis on va voir ce que Bercy va donner. Sinon, ça va être le ministère de l'Intérieur, oui. Ça, c'est sûr. Mais quand même, je prends dans votre remarque ce constat de ce qui se passe en prison. Alors bon, ça, c'est l'autre constat, c'est que mon ami Falissard a fait des études sur la prison. C'est qu'en prison, il y a un nombre de déprimés considérables, de suicides considérables, de schizophrènes considérables qui n'ont rien à faire là-bas, mais que dont les hôpitaux ne peuvent pas se charger. Donc oui, la situation n'est pas idyllique, mais je répète, ce n'est pas la plus catastrophique. Mais bon, le degré d'une civilisation, c'est à l'aune de la manière dont le pouvoir arrive à s'occuper des enfants et des fous, c'est-à-dire des plus démunis, et des femmes au milieu. Des femmes.
Et l'Allemagne ne fait pas mieux.
L'Allemagne ne fait pas mieux. Non. Non, le service, l'assistance, comme on dit avec des guillemets, le service social français, c'est quand même du luxe. Hein. C'est un luxe, enfin un luxe très cher. Non, alors la Suisse ne fait pas partie de l'Europe.
Ils ont des budgets. Ouais.
Non, bien sûr. Bien sûr que la Suisse est différente, bien sûr. Quoique, on pourrait discuter de politique, c'est-à-dire de la médecine à deux vitesses, les riches et les pauvres quand même, il ne faut pas exagérer. Ça, en Suisse, c'est très massif. Hein.
Madame.
Oui, bonjour, moi je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse aussi, en service de milieu ouvert. Et ça fait écho avec une situation que je viens de traverser sur l'hospitalisation d'office d'un mineur qui a été diagnostiqué schizophrène lors de sa quatrième incarcération à 16 ans. Donc il était en mandat de dépôt, il est sorti. Et 3 mois après, il y a eu récidive, il a à nouveau été incarcéré. Et le juge des enfants, à ce moment-là, redemande une nouvelle expertise psychiatrique qui a lieu quelques jours avant son jugement. Et là, le psychiatre conclut à une abolition totale du discernement avec une dangerosité certaine et préconise une hospitalisation d'office. Au moment du jugement, le juge des enfants demande l'hospitalisation d'office. Donc le procureur saisit le préfet qui, dans la foulée, nous donne son arrêté d'hospitalisation d'office et mandate l'ARS pour trouver le lieu. Et moi, je viens de la région Champagne-Ardenne et c'est la pénurie totale de lieux pour hospitaliser les mineurs en psychiatrie, que ce soit en hôpital ou bien même en service adapté. Enfin, voilà. Donc, il est hospitalisé au service psychiatrique des adultes en clinique. Dans la foulée, quoi, sortie du tribunal, levée d'écrou, une équipe médicale l'attendait devant la maison d'arrêt et l'a accompagnée à la clinique psychiatrique. Deux jours après, je me rends à la clinique pour faire un point avec les médecins psychiatres qui l'ont accueilli, puis l'équipe médicale qui le prend en charge depuis deux jours. Et là, on me dit, non, mais c'était vraiment très court. Nous, dès demain, il est sortant, quoi. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, on m'explique que ces bizarreries, c'est ce qui est noté dans leur compte-rendu, ne relèvent pas de la psychiatrie, bien qu'ils soient schizophrènes, etc., mais relèvent de l'éducatif, et qu'à ce titre, il n'a rien à faire en hôpital psychiatrique. Et donc, le préfet demande un deuxième avis médical, qui est rendu par un collègue du coup du même médecin qui avait donné le premier, donc qui bien entendu confirme le premier avis médical. Et la maman est contactée, donc une maman qui est complètement absente du système, voilà, parce qu'elle elle refuse de prendre en charge son enfant depuis des années. Et là, le mineur se rend à notre service et on apprend qu'il est sorti. Voilà, et que personne n'est venu le chercher. Le deuxième avis médical est tombé. Le préfet a rendu du coup son arrêté de sortie, de levée d'hospitalisation d'office, et le gamin est sorti. Et là, ben, on s'est retrouvé face à un cas de conscience, quoi. Quid de ce qu'on fait de ce môme-là qui a 16 ans et demi, qui avait déjà fait 5 incarcérations, qui est malade. Aucun lien n'a été pris avec le pédopsychiatre qu'il suivait en ambulatoire quand même depuis des années et qui avait mis en place une piqûre à effet retard mensuel, qui refuse bien entendu d'aller, voilà, donc il n'y a pas de traitement. Voilà.
Voilà, la solution s'il vous plaît. Nous attendons, monsieur Corcos.
Non, mais bon, vous évoquez une situation qui existe, qui n'est pas unique, hein, c'est les patates chaudes, les incasables, mais bon... Il y a évidemment de la mauvaise foi, de l'idiotie totale peut-être de ce médecin, mais je ne crois pas, de la mauvaise foi. C'est-à-dire que la mauvaise foi, c'est de dire que ça ne relève pas de la psychiatrie, mais de l'éducatif. Face à une symptomatologie aussi évidente et confirmée par plusieurs médecins. C'est-à-dire que c'est une façon de ne pas prendre le malade. Et oui, même moi, c'est pour vous dire l'humanité, quoi. C'est-à-dire quelqu'un en hospitalisation d'office, un schizophrène, incarcéré, etc., c'est une galère, quoi. C'est-à-dire que vous êtes parti pour un an et demi, il n'y a pas de famille, il y a des contacts, il y a des trous partout, enfin bon, c'est une galère. Donc naturellement, les gens ne se précipitent pas vers les galères. Bon. Oui, oui, c'est la situation. C'est la situation. Je pense que tout de même, on est au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il y a la loi. La loi. Et la loi, alors, c'est peut-être plus facile pour moi que pour vous, mais c'est à vous de trouver qui peut être porteur de cette loi. Mais là, en l'occurrence, si j'étais dans le coin, dans ce coin où plus ou moins démuni, eh bien, j'appelle ce médecin, je lui demande de m'expliquer pourquoi ça relèverait de l'éducatif ou pas, et je lui dis si ce patient est de son secteur, et si c'est de son secteur, je lui dis de le prendre, sinon je vais en informer le juge. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut mettre la même densité dans la réponse que dans l'agression, y compris de la part des soignants qui veulent se défausser. Bon, en même temps, la situation des secteurs dans certaines régions est catastrophique. Il n'y a plus assez de soignants, il n'y a plus assez d'infirmiers, on recourt aux sismothérapies un peu trop massivement, les contentions le soir sont légion parce qu'il n'y a pas assez de bras, etc., etc. Oui, on est dans une situation. Donc évidemment, je n'ai pas de réponse, si ce n'est de redire que si l'éthique fout le camp dans ce métier, c'est sûr qu'il va y avoir des morts, quoi. Et il y a des morts. Donc il faut ramener les gens à l'éthique, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils travaillent, quoi. Bien sûr.
D'autres questions ?
Mais bon, déjà, être psychotique schizophrène, c'est compliqué. Déjà, être multi-incarcéré, c'est compliqué. Mais quelle que soit la façon dont le schizophrène, enfin, pas la schizophrénie, ce schizophrène-là, ce patient-là, ce sujet qui par ailleurs est schizophrène. Donc je pense qu'il doit avoir, et je ne sais pas laquelle, une représentation du monde. Eh bien, je crois que sa représentation du monde ressemble à quelque chose qui est, si j'en crois le fait que sa mère ne s'occupe pas de lui et ne veut pas le reprendre, sa représentation du monde, dès le début, c'est que le monde ne répond pas. C'est la phrase de Pierre Fédida, l'intersubjectivité primaire est au fondement de l'objectivité du monde. L'intersubjectivité primaire, la relation intersubjective, corps à corps, chaleureuse avec sa mère, c'est la première rencontre qu'on a avec le monde. C'est la première fois qu'on a faim, on a froid, et qu'en face, il y a quelqu'un qui nous réchauffe, qui nous alimente, qui nous prend, qui nous sert. Enfin bon, si cette mère était défaillante d'emblée, et que ce gosse qui sort du néant et qui rencontre le monde, et s'il rencontre le néant, c'est-à-dire pas de réponse, il y a de quoi être psychotique. Mais si en plus la société ne pourvoit pas aux défaillances, si la société fait la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande d'un endroit, d'un foyer, d'un centre pour l'accueillir, il n'y a pas de réponse ou il tombe dans le vide, il n'y a aucune raison qu'il arrête d'être psychotique.